Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Au bout du foot, 20h30, 22h, Malik Eudy. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudy et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur Mon Paris FM.
Bienvenue à tous. Vous êtes sur Mon Paris FM. Vous êtes dans Au bout du foot. Il est 20h31 sur la radio citoyenne. Ensemble avec Au bout du foot aujourd'hui, on va parler de foot naturellement. Et le programme, il est hyper chargé. Mais juste avant, je vais présenter mes amis présents. Je vais saluer Stéphane Desenclos.
Bonsoir.
Salut Stéphane,
Malik.
Comment
bonsoir,
ça va?
Malik, ça va très bien.
Du
très
quotidien
bien.
Du sport.fr.
Ouais, bon, qui est la semaine dernière.
Le quotidien se porte bien?
Ça va.
Ça va?
Ça va.
Ça se passe bien, il y a de l'actu là,
ces jours-ci. Il y a de l'actu.
Et comment est-ce que vous démarquez justement dans ce flot d'actualité au niveau du quotidien du sport, Stéphane?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dur à expliquer pour les gens. En fait, quelque part, plus il y a d'actu, plus on est un peu on n'est pas en retrait, mais bon là quand il y a tout le monde, t'as 50 ans, donc tout le monde a l'actu, donc c'est très difficile de se démarquer par rapport à ça. Après c'est toujours pareil, c'est dans de la prise d'opinion, de l'analyse, et surtout pas hésiter à s'engager et à dire ce qu'on pense, hein, quand un peu comme tu fais ici, hein, comme je disais dans le j'ai vu la pub sur le journal là, l'émission qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, bah c'est ça, parce que souvent les autres ils pensent. Donc on essaye d'être un petit peu comme ça, mais c'est vrai que c'est par rapport à notre quotidien en fait sur le quotidien du sport.
On va saluer également notre étudiant Ibrahima. Salut, ça va?
Salut, ça va. Salut à tous.
Ouais,
salut.
T'as passé une bonne semaine, un bon week-end de football?
Oui, ça va. Il y avait des matchs plaisants à regarder. J'ai plutôt passé une bonne semaine. Et...
plaisant dans l'affiche, mais est-ce que dans le contenu c'était si plaisant que ça?
Bon, ça va, il y a eu de tout, sincèrement. Il y a eu beaucoup d'affiches dans tous les championnats européens. Il y a eu du bon comme du moins bon, et on attend de voir ce qui va se passer.
Voilà, ça va se voir, et là, tu vas nous dire si que... Moi, j'avoue que, effectivement, il y a beaucoup d'affiches.
Ouais.
Malheureusement, j'ai pas pu les voir toutes, et puis peut-être pas non plus les meilleures.
Bah, tu vois, tu fais attirer les oreilles justement par un like d'un
quelques instants. Non, moi je suis décontracté maintenant qu'on sait qu'il y en a au moins un qui regarde les 25 matchs du week-end.
Il a trois écrans, notre ami Eladj. Notre ami Eladj, justement, qu'on attend impatiemment dans Au bout du foot, ainsi que Chekenza qui vont pas tarder à nous rejoindre. Philippe Carnu également sera là également dans Au bout du foot. Mais on va transiter par le sommaire de votre émission. C'est parti.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 30 octobre 2023, bus caillassé, Fabio Grosso ensanglanté, match reporté, le football français très très embarrassé, les commentaires d'Au bout du foot suite à l'annulation d'OM face à l'Olympique Lyonnais. Coupes européennes, nos représentants s'en sortent avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Satisfaisant ou pas, Au bout du foot se prononce. Équipe de France, souhaitez-vous voir Warren Zahir Emery appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement? Au bout du foot se prononce. Championnat espagnol, Messi, CR7, Benzema parti. La Liga se cherche une star. Le niveau du championnat espagnol a-t-il baissé? Jude Bellingham est-il l'arbre qui cache la forêt? Au bout du foot donne ses réponses. Messi, vainqueur du Ballon d'Or lors de la cérémonie 2023. Une cérémonie presque sans engouement. Que pensez-vous des distinctions individuelles dans le football? Au bout du foot donne son avis. Paris sportif, 3 internationaux italiens dans la tourmente. Quelles conséquences pour la suite de leur carrière? Au bout du foot, première saison, 5e numéro, bienvenue.
Au bout du foot, 30 30 secondes chrono.
Le sommaire d'Au bout du foot, un sommaire riche, vous l'avez entendu. On va débuter par la chronique habituelle d'Au bout du foot, le 30 secondes chrono.
Au bout du foot, 30 secondes chrono.
30 secondes chrono, Ibrahima, qu'est-ce qui t'a impacté ce week-end ?
Alors, ce qui m'a impacté ce week-end, c'est le combat de boxe qu'il y a eu entre Francis Ngannou et Tyson Fury ce week-end à Riyad. On a assisté à plutôt un bon combat de boxe. Francis Ngannou m'a pas mal surpris, sincèrement, pour sa première en boxe anglaise, qui lui, habituellement, est combattant de MMA. Et c'était franchement une belle affiche et j'ai pris du plaisir à voir ça. Francis Ngannou m'a franchement surpris. Je pensais pas qu'il était aussi bon dans ce domaine-là. Et il a prouvé au monde entier qu'il pouvait exceller dans tous les domaines.
Ça, c'était un hors-sujet, hein, cher Ibrahima. On a dit foot, hein. T'as parlé de Ngannou, t'as parlé de boxe.
T'as gagné ton pari.
Cher Stéphane, 30 secondes chrono.
Bah, difficile de dire qu'on n'a pas été choqué par ce qui s'est passé à Marseille. Hein, et que le...
On y reviendra.
Ouais, on y reviendra, bien sûr. Mais c'est, je pense que c'est difficile de parler d'autre chose aujourd'hui. C'est hallucinant. On va en revenir. Alors, est-ce que c'est... J'en parlais tout à l'heure dans l'émission avec Philippe, c'est tout simplement le reflet horrible, noir de la société à travers le sport qui touche tout, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'il en est. C'est des gens qui n'aimaient pas d'autres gens, donc ont décidé de leur envoyer des pierres à la figure. Voilà.
Pile poil sur le chrono, mon cher Stéphane Desenclos, tu en parlais justement, bus caillassé, Fabio Grosso ensanglanté, match reporté, le foot français très très embarrassé avec ce qui s'est passé hier du côté de Marseille. Cher Ibrahima, tu vas nous dresser un topo récapitulatif juste avant le débat.
D'accord, pour pouvoir résumer les faits, ce dimanche 29 octobre 2023 aurait dû être le jour entre le match entre l'Olympique de Marseille, 9e en Ligue 1, qui recevait l'Olympique Lyonnais, qui est 18e pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Hier soir, le bus transportant les joueurs de l'Olympique de Marseille vers le stade Vélodrome fut attaqué par des prétendus supporters de l'Olympique de Marseille. Parmi les victimes, nous comptons le coach Fabio Grosso ainsi que son adjoint qui ont été blessés par des projectiles visant le bus. Sur des images diffusées sur Prime Video, l'entraîneur a été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du stade Vélodrome. En premier lieu maintenu, l'Olympico fut finalement annulé et reporté à une date ultérieure.
Merci Ibrahima. Cher Stéphane.
Alors, petite info juste de
oui, en complément,
qui est tombée.
Oui.
Il y a intervention du procureur de la République de Marseille il y a à peu près une heure ou deux heures,
oui,
qui a annoncé donc qu'il avait 30 jours d'ITT.
D'ITT.
Ouais, Fabio Rousseau.
12 qu'il avait, points de suture.
Ouais, ouais, ils ont 9 personnes interpellées, mais apparemment... Pas en relation directe avec l'attaque du bus des joueurs de l'OM, de l'OL.
Mais justement, sur le fait en lui-même, hein, l'attaque du car de l'Olympique Lyonnais, on se rend compte que ce n'est pas la première fois que cela intervient dans le foot français. Quand ce n'est pas à l'intérieur des stades, c'est à l'extérieur ou en tout cas aux abords. Aujourd'hui, il y a forcément des raisons à tout ça. Ça, c'est un. De deux, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, nous, ici, à notre humble niveau, pour remédier à ce genre de fléau? Parce qu'on sait bientôt qu'on va organiser les JO. Il y a pas mal d'événements qui vont se dérouler, notamment en France. On vient de sortir du championnat de rugby. On n'a, semble-t-il, pas eu ce genre de péripéties. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois, c'est dans le foot? Comment ça se fait que assez régulièrement, c'est du côté aussi de Marseille que cela intervient? Mon cher Stéphane, quelles sont tes lumières?
Bah écoutez, moi, comme je vous le disais tout à l'heure là, dans ma minute, je pense que c'est le reflet noir de la société. Alors peut-être pourquoi le foot plus que autre chose, et ce qui peut laisser peut-être un peu craindre pour les Jeux Olympiques, c'est que le foot est aussi du coup justement un formidable miroir, une formidable caisse.
On l'a eu également lors de la finale de la Ligue des Champions.
Ouais, hein. On a une caisse, voilà, exactement, une caisse de résonance incroyable. Sauf que c'était peut-être les motivations, les actes étaient différents, parce que comme je vous disais là, moi c'est comme ça en tout cas, je l'ai vu, des gens qui ils n'aiment pas des gens, ils ont envie de de se mettre en avant, ils ont envie de se défouler et tout, alors il faut ce genre de choses. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Mais effectivement, apparemment, ils appartiennent à aucun groupe de supporters. Ça a été un guet-apens, un véritable guet-apens qui a été mis en place. Alors comment y remédier ? Bah, y remédier en faisant, en y accordant certainement plus d'importance. J'entendais sur une radio des supporters Cataldo, là, le président des Dodgers, qui disait que peut-être le trajet du bus n'était pas non plus le plus sécure. Il parlait, lui, d'un autre trajet qui aurait été beaucoup plus
apparemment sain. L'hôtel lyonnais était à 10 minutes en quart du stade.
Il parlait
donc 10 minutes, c'est pas non plus énorme. Non. Hein.
Mais il parlait, j'ai été bien
selon
sûr,
les informations,
fois,
en tout cas,
plusieurs fois voir des matchs à Marseille, mais je connais pas bien Marseille. Et effectivement, il avait l'air de dire en passant par là, par telle porte qui est ouverte et tout, là, en deux secondes, c'est fait et tout, il n'y a aucun risque, il n'y a rien du tout. Non, mais c'est pour l'avenir, c'est vrai que c'est triste de dire ça,
Oui, mais cela dit, Stéphane, il y a eu quand même des signalements. Quand on a aujourd'hui un Lyon qui est dernier du classement, l'OM qui a envie de se faire l'Olympique Lyonnais, forcément, quand on sait aussi que c'est la nouvelle rivalité dans ce championnat, parce que Paris est très, 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 très loin au-dessus de Marseille, la nouvelle rivalité, entre guillemets, aujourd'hui, c'est bien l'OM face à Lyon, comme on dit l'Olympico. Hein. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu expliques le fait qu'il n'y ait pas quand même un minimum de sécurité autour du quart lyonnais ? Moi, je me pose la question. C'est la première réaction. Ben, Au-delà du fait que c'est une bêtise, hein, ça, on va pas se le cacher. C'est
l'enquête,
une grosse bêtise qui a été faite.
C'est vrai que l'enquête va nous le dire. Mais ce qui est, il y a deux choses qui sont quand même assez incroyables dans cette histoire. C'est effectivement que tu puisses, parce que bon, on a tous vu ou à la télé ou en réalité des quarts d'équipes adverses arriver au stade. Au strict minimum, t'as deux motards devant, deux motards derrière. Quoi. Très souvent. Quoi.
Mais là, donc, le contexte déjà s'y prêtait à avoir un peu plus de sécurité.
Exactement. Donc tu dis comment tu peux arriver à faire ça sans, en plus, entre guillemets, parce qu'un jour, il y en a un, il va tirer une roquette, par exemple, ou il va prendre un bazooka, il va tirer un bazooka, ou il va envoyer une grenade, ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, c'est pas uniquement. On avait vu je sais pas si vous vous rappelez un match de coupe de Ligue des Champions de Dortmund, c'était Dortmund Monaco je crois, où le bus avait été
attaqué. Oui, tout à fait. Tourelle qui était le coach à ce moment-là de Dortmund.
Et il y a un joueur qui a été blessé à l'oreille, je crois, qui a été pas mal sonné. Le match, il a juste été reporté au lendemain, je crois, et il a eu lieu quand même, donc il a eu lieu dès le lendemain.
Mais il y avait eu des polémiques,
il y avait beaucoup de polémiques. Maintenant, surtout que les Allemands ne voulaient pas trop jouer. Hein. C'est l'UEFA, c'est la Ligue des Champions, donc c'était compliqué. Maintenant, effectivement, c'est le point qui est quand même que je trouve qui est assez hallucinant. Quoi. Comment tu peux aujourd'hui, dans notre société, à 10 minutes du stade, un bus de personnalité qui se fait attaquer et qui se fait comme ça. Alors, peut-être aussi, c'est un concours de circonstances, parce que comme des caillassages de bus, Lyon, je ne vais pas dire que leur bus il est tout le temps caillassé quand ils vont à Marseille, mais presque quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que peut-être que là il y a le pavé qui est tombé à l'endroit où ça, et puis à la limite je vais pas dire tant mieux, parce que, mais bon, c'est quand même à quelque chose d'exceptionnel. Et puis après, faut pas que ça passe, le souci c'est qu'il faut pas que ça passe non plus sous silence ce qui s'est passé, parce qu'il y a
là,
quand même
là ça ne l'est pas là visiblement, parce
non
que
ça non
c'est,
il y a autre chose
c'est,
de
remonté,
très...
c'est remonté au
il y a
plus
autre
au
chose
sommet.
Quand même de très très grave qui s'est passé sur ce soir là
ouais.
C'est que t'as quand même, pour une fois, t'as une préfète, la préfète des Bouches-du-Rhône, qui accepte la venue de 600
supporters lyonnais.
Et après, au-delà de ça, t'as quand même un comportement des là il va y avoir certainement enquête, là, autant sur l'extérieur, le plus grave quasiment, la LFP va pas intervenir, autant sur ce qui s'est passé à l'intérieur, le comportement des supporters lyonnais qui étaient quand même tous des aux grands pour
parce
majorité,
que là il faut qu'on fasse le distinguo, mon cher Stéphane, ouais. Parce qu'il y a ce qui s'est passé en dehors, et c'est une des raisons qui milite en faveur de l'OM d'une certaine façon, sachant que le match apparemment ne sera pas perdu sur tapis vert. Parce que ça s'est passé en dehors. Hein. C'est bien cela. Ibrahima, justement, ton sentiment sur ce qui s'est passé hier au niveau de Marseille, bus caillassé. Grosso, l'entraîneur lyonnais avec son adjoint qui sont blessés. 12 points de suture au niveau donc, de Fabio Grosso. On parle aussi d'un ITT. Hein. C'est bien
30 jours.
De 30 jours, quand même, c'est beaucoup. Est-ce que l'Olympique lyonnais avait besoin de ça ?
Franchement pas, c'est vraiment pas la période pour eux, pour que ce genre d'événement se passe, et ce sera jamais la période d'ailleurs pour. Après, en ce qui concerne les événements qui sont passés hier soir, c'est très grave, hein. Sincèrement, les images de Fabio Grosso sont assez alarmantes. On voit qu'il est passé tout près de perdre un œil, hein. C'est quand même 12 points de suture. Après, sincèrement, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces événements-là se passent toujours en France, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un réel problème de sécurité actuellement autour des gros événements.
Un problème de sécurité, mais un problème de délinquance aussi. Hein.
Oui, c'est sûr, il faut en parler. Enfin, je ne sais pas qui sont ces personnes qui ont lancé, mais il va falloir faire quelque chose pour y remédier le plus vite possible. Et je pense que, enfin, à mon avis, je pense que le plus gros souci, c'est qu'il va falloir sévir aussi à un moment donné en ce qui concerne les supporters. Parce que quels que soient les stades ou tout ce qui tourne autour du foot, j'ai l'impression que les supporters se croient vraiment tout permis. Et se permettre de lancer des objets, c'est pas la première fois. On avait vu l'année dernière Dimitri Payet recevait une bouteille d'eau par match. On a vu aussi cette année Moridio, le gardien de Clermont, qui a pris un pétard. Enfin, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et je me pose même la question de si la sécurité des joueurs n'est pas mise en danger à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un match de foot, quoi.
Non, mais c'est vrai hein, ce que tu dis, parce que je me souviens, tu parles de Dimitri Payet. Il y a des images qui sont devenues plus ou moins communes, banales aujourd'hui.
Oui,
hein. Un joueur qui va tirer un corner et qui est sous couverture.
En fait, c'est ça, c'est qu'on
a paratonnerre, si j'ose dire. C'est très 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 grave.
Il y a une telle. S'il y a un moyen d'agir de la part, en tout cas, des clubs et de la LFP et des clubs, vraiment en tout premier, c'est sur cette espèce de prise de pouvoir, quoi qu'on dise, hein. On assiste un peu à une prise de pouvoir des supporters sur les clubs de foot, mental, psychologique, je sais pas, où ils se sentent, c'est leur club. Je les ai déjà parlé ici.
Oui, tout à fait. Ouais.
J'avais interviewé par exemple Dominique Battenet. Hein,
il y a une forme d'emprise nouvelle.
À l'époque des incidents d'il y a deux ans sur Saint-Etienne, et c'est donc un joueur d'ancienne génération, hein, et il était sidéré, quoi. Il me disait, mais les supporters, ils sont là pour supporter le club, quoi. Alors que maintenant, et puis le club, c'est un peu d'exutoire aussi. On va aller à Marseille, c'est ça, hein, beaucoup de jeunes de Marseille, c'est leur vie,
c'est
l'OM, quoi.
Ouais.
Donc ils ont envie de frapper fort, ils ont envie d'être violents, ils vont le faire à travers l'OM.
Ouais, mais est-ce que la passion doit forcément entraîner la violence?
Non, bien sûr
ça,
que non. Ouais. Mais peut-être aussi, il y a quand même de moins en moins, alors c'est pas depuis le fameux plan Le Prou, depuis pas mal de choses, il y a beaucoup beaucoup moins de ce genre de choses. L'OTAN, le Paris Saint-Germain, quand j'étais plus jeune, a été très très affecté par ce genre de choses, hein. Il y a même eu un supporter qui est décédé, donc ça a été très très loin. Autant aujourd'hui on voit plus ça. Alors maintenant effectivement on peut dire que l'ambiance est claire, l'ambiance elle est peut-être moins bonne dans les tribunes du parc que dans celle du stade.
Mais je crois aussi que l'avènement des réseaux sociaux favorise quand même cette emprise qu'ont les supporters de plus en plus vis-à-vis des clubs. Hein.
Ben
même
bien sûr,
même un club comme Lyon qui a priori semblait être bien géré, bien structuré, oui, avec Aulas, tout ça, on se rend compte quand même que malgré tout, il y avait une forme d'emprise au niveau des réseaux sociaux sur les différents clubs, Ibrahima.
Je pense que les gens sous-estiment à quel point les clubs s'investissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Enfin, tout l'argent qui est déboursé pour de la communication ou tout simplement aller dans le sens du vent, enfin aller dans le sens des supporters dans les réseaux sociaux, c'est assez affolant aujourd'hui de voir l'emprise qu'a eu les réseaux sociaux sur le football français.
Semble-t-il qu'il y a
il
y a des influenceurs même qui sont grassement payés
ambassadeurs
aujourd'hui, par des clubs, hein, juste pour faire des vidéos ça et là pour défendre une thèse ou une autre selon
ça servira pas à grand chose parce que
ça a des influences, mon cher Stéphane.
Je suis pas sûr que ça ait une influence énorme, si ce n'est pour des fois pour redorer le blason
parfois ça désamorce
certains, pour redorer le blason, parce qu'effectivement effectivement, on a tout le monde a été bien sûr au courant de ce qui a été révélé il y a quelques temps sur Jean-Michel Aulas qui payait un influenceur pour ça. Et le but, si c'était surtout, quoi, je pense, hein, il me l'a pas dit, mais sur, à force de se faire démonter et défoncer sur les réseaux sociaux, il paye des gens pour dire quand même un peu de bien, quoi, qu'on dise du bien.
Je pense c'est un peu tous les clubs. Hein.
Oui, exactement. Ouais. Exactement. En tout cas, moi, je n'en veux pas du tout. Il y a beaucoup qui se sont offusqués de ça. 4000 euros par mois, c'était bon, bref.
Ce sont les nouveaux journalistes.
Ouais, mais simplement, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour fréquenter beaucoup les réseaux sociaux aussi, moi, je veux dire, les gens, c'est comme les supporters, ils sont de toute façon tellement sûrs d'eux que j'ai l'impression qu'on peut rien faire.
Mais ils sont sur deux parce que tout simplement, déjà ils sont grassement payés pour ce qui est des influenceurs.
Non, mais ceux qui sont non, après, pas deux, moi.
Après, les supporters aujourd'hui sont davantage organisés. Donc aujourd'hui, à une personne près, on sait qui vient au stade. C'est limite.
Oui, mais sur les réseaux sociaux, arriver à ramener le calme sur les réseaux sociaux me paraît moi complètement impossible parce que je dis que ceux qui y sont et qui disent qu'ils ont envie de dire, hein, les gros comptes et tout, ils sont sûrs d'eux. C'est-à-dire que t'as, pour avoir déjà discuté avec certains, hein, je le disais, hein, quand tu écris tu fais un article, que les supporters de telle équipe, Nice par exemple, quand ils s'étaient passés, sont insouciants, ils font n'importe quoi et tout, tu te retrouves derrière par une bordée d'insultes d'insultes et tout, parce que t'as pas le droit, quoi. Quand t'as un hors-jeu qui est truc, t'as tout de suite, 10 secondes après, 50 photos, il n'y a pas en jeu là, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça et tout, quoi.
Ouais, on peut discuter, mais c'est quand on arrive justement dans des invectives, dans des injures, c'est là où il y a le problème. Bonsoir, mon cher Eladj.
Bonsoir, Malik.
Comment ça va, bien ?
Ça va, et toi ?
Très très bien. Justement, on évoque en ce moment même ce qui s'est passé hier à Marseille. Forcément, t'es au courant de l'actualité. Oui. Fabio Grosso en sang, bus caillassé, match reporté. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il se passe véritablement dans le football français. Quel est ton avis sur la question, notamment sur ce qui s'est passé hier au niveau de Marseille ?
Bon, moi je suis un peu mitigé, hein, parce que maintenant il faut savoir, c'était dans la rue, c'était pas dans un stade. Déjà, moi je pense qu'il faut nuancer les choses. Maintenant, moi ce qui m'inquiète quand même pour l'avenir, c'est que maintenant, n'importe quelle personne peut décider le sort d'un match ou d'un club. N'importe quelle personne, voilà. Moi demain je suis pas pour l'OM, je descends à l'OM, il y a le match Olympico, je veux pas qu'il gagne, j'arrive, hop je me déguise en supporter d'OM, je jette une pierre sur le camion, boum, ok, il y a plus de match, il y a plus rien, etc. et basta. Je sais qu'ils vont prendre des pénalités derrière, ils vont sûrement perdre sur tapis vert, ils vont sûrement perdre aussi des points. Voilà, moi je pense que maintenant le réel problème, je pense que faut le voir autrement. En tout cas, c'est pas juste il y a eu un problème. En plus, là, c'était vraiment en dehors du stade. Clairement, là, c'était vraiment en dehors du stade.
C'est une des raisons, justement, qui fera certainement que l'Olympique de Marseille ne sera pas sanctionné sportivement.
Ah oui,
pour l'instant, en tout cas.
C'est quasiment officiel. Hein. Encore tout à l'heure à la radio, le directeur général de la LFP, il a dit nous, on ne se saisit absolument pas de cette affaire-là. Hein. Ils se saisissent. En revanche, ceux qui vont être sanctionnés, peut-être, et à mon avis certainement, c'est plutôt l'Olympique lyonnais, pour leurs supporters, ce que je disais tout à l'heure.
Justement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les supporters lyonnais, hier à l'intérieur du Vélodrome ?
C'est que des témoignages, moi quand j'ai vu des images aussi, des cris de singe, des insultes, des saluts nazis, des provocations, des choses comme ça, quoi, un certain nombre de supporters. Et ce qui est d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est aussi parallèlement à cette triste affaire qui, je le dis moi, relate plus du fait divers. Pour moi, elle est plus proche du fait divers que d'autres choses. C'est assez affligeant. La préfète, pour une fois, à la suite d'une réunion de préparation avec les supporters marseillais, hein, les supporters marseillais ont incité la préfète à accepter la venue de 600 supporters lyonnais, quoi. Et les mecs qui viennent, et puis
là, on mais là, on est parti pour une interdiction totale hein, de n'importe quel club désormais. Hein,
mais ça pense, sera hein. pas là. Je pense que ça n'aura rien à voir, de toute façon, avec l'agression de Grosso.
Parce ouais,
que,
mais tu sais très bien comment ça se passe hein, en général. Quand c'est comme ça, on prend une décision pour tout le monde très carrée, très drastique.
Mais ce qui est fou, c'est comment trouver une solution, tu vois.
C'était déjà une question qu'on se posait, hein, les déplacements des supporters.
On va pas parler de politique ici, mais ce matin, Darmanin, il a dit nous, on n'a rien à nous reprocher. Les clubs, ils disent nous, de toute façon, c'est à l'extérieur du stade. C'est pas notre sort. C'est vrai que la loi, elle est comme ça. Hein, c'est dans le stade, quoi, le règlement. Donc c'est vrai que c'est. S'ils commencent à se renvoyer tous la balle et tout, c'est quand même. L'État, rien à se reprocher. Une attaque d'un commando sur un bus, entre guillemets, même avant que ce soit des joueurs, on va dire, de personnalité, puisque c'est, on dit que c'est un fait divers. Ouais. Et l'État, il a quand même un peu d'après moi, il a quand même un peu à se reprocher.
Bien sûr qu'il y a quelque chose à se reprocher sur la voie publique. Je sais pas, il aurait pu commettre un meurtre entre guillemets. C'est quoi, ils ont dit la même chose? Non, je pense pas. Mm-hmm. Ça revient à la même chose. Je pense que c'est l'État qui doit prendre en charge tout ce qui s'est passé là en dehors du stade et ça doit être poursuivi par la justice.
Oui, c'est assez récurrent quand même hein, dans le foot français, en tout cas aux abords ou à l'intérieur des stades, comme je le disais précédemment. On a régulièrement quand même de la casse et on est arrivé à deux doigts justement de faire perdre un œil à Fabio Grosso. Et franchement, c'est exactement ce dont on refute et qu'on ne souhaite pas du tout dans le football et même au-delà du football, dans la vie, tout simplement. Les amis, je sais que vous n'êtes pas des politiques, vous n'êtes pas des instances, vous n'êtes pas des préfets, mais si vous avez chacun comme ça une solution pragmatique pour endiguer ce type de fléau, Eladj, tu dirais quoi par exemple? Quelle suggestion tu pourrais faire?
Je pense que franchement, il n'y a pas assez de policiers, soit il n'y a pas assez de sécurité en fait. Je pense que le bus qui se déplace.
Mais avant
ça,
même de la sécurité, pourquoi il y a autant de voyous? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de voyous autour des stades aussi? En amont, il faut prévenir la sécurité. Moi, je vais bien. Oui. Mais je vais dire, quand on a 65 000 personnes hier, je crois, du côté du Vélodrome, on mettra autant de policiers qu'on voudra. Si vraiment le public se met à déballer, les policiers ne pourront rien faire.
Oui, mais une escorte correcte, quand même. C'est un car. On parle d'un car, là.
Oui.
Une escorte correcte. On ne peut pas me dire qu'il y a un car qui se promène. Il n'est pas encore dans le stade, il est à l'approche du stade, etc. On ne peut pas me dire qu'on n'arrive pas à sécuriser quand même un car qui arrive avec des personnalités.
Au moins sécuriser les joueurs dans un premier temps.
Et le staff.
Et tout le staff technique. Ibrahima, si tu as une piste de réflexion par rapport à la sécurité, pour ne plus que justement on puisse connaître ce type de fléau.
Je suis sur la même ligne qu'Eladj. Il y a quelque chose qui m'a toujours choqué. J'ai jamais compris comment un car avec autant de personnalités pouvait être seulement entre guillemets protégé par un motard à l'avant et un motard à l'arrière. J'ai toujours trouvé ça trop peu et très dangereux, et hier soir on en a eu la preuve. Donc va falloir mettre plus de sécurité,
et
tout simplement
particulièrement quand c'est Lyon à Marseille.
Oui, surtout quand c'est ce contexte là
c'est pas Clermont à Angers,
hier soir on est passé très très proche d'une catastrophe hein. Il a failli perdre un œil quand même, Fabio Grosso, donc on aurait pu blesser plus de joueurs aussi, ça aurait pu être bien plus grave. Hein.
En fait,
ta piste de solution avant qu'on.
Je disais juste que les forces de l'ordre, la police a été pointée du doigt par rapport à ça. Comment c'est possible qu'un car soit attaqué? Et eux, ils ont dit que pour assurer plus de sécurité, c'était un problème de nombre, d'effectifs. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, Malik, qu'on va plus avoir de supporters qui vont faire leurs déplacements, parce que la première décision qui va être prise, ça va être
interdiction totale
des supporters de faire les déplacements. Ouais. Comme ça, on, les forces de l'ordre ne s'occupent que du bus et tout, et on a au moins l'essentiel de l'effectif qui est consacré à la protection des équipes adverses.
Mon cher Philippe Carnu,
oui.
Bienvenue dans Au bout du foot. Justement, on parlait du caillassage qui a eu lieu hier du côté de Marseille. On ponctuait là-dessus. Quelle solution, selon toi, on pourrait envisager pour endiguer ce mal?
Le problème, c'est que ça n'a pas eu lieu au stade. Alors, bon, certes, ça concerne un match de foot, donc ça concerne des équipes de foot, ça n'a pas eu lieu au stade, donc il y a eu quand même un manquement sur la voie publique. Après, effectivement, je pense que c'était un match, je crois, risque 4 sur 5. Hein, donc, il aurait fallu, effectivement, ne serait-ce qu'envoyer quelques motards aller chercher les gars à l'hôtel et au moins les encadrer.
Mais est-ce qu'on a la preuve que ça n'a pas été fait aussi
jusque-là? Mais je pense que ça dépasse. Bon, là.
Mon cher Stéphane, on a la preuve que ça n'a pas été fait.
Hein. Non.
Ça a été fait.
Il
n'y
avait
comme...
rien, Stéphane, devant les cars. Il n'y avait pas de motard.
Il
n'y
avait même pas un motard. Non, en général, il y a des motards quand même.
Là, il n'y avait personne.
Non, il n'y avait rien. Il n'y avait personne.
Parce que visiblement, il y avait 10 minutes entre l'hôtel et le vélodrome.
Oui, donc c'était facile d'envoyer quelques motards.
Mais ça n'a pas été fait.
Les escorter, non. Donc là, il y a eu un manquement, il y a eu un loupé.
Mais donc, dans ce cas-là, les responsabilités vont.
C'est la voie publique, c'est la préfecture.
C'est la préfecture qui
se charge. Je ne pense pas que ce soit le club. Et puis après, bon, c'est un fait sociétal. Hein. Bon. Les gens qui ont caillassé le car, c'est ceux qui ont brûlé les poubelles, qui font des doigts d'honneur à la police, qui ne s'arrêtent pas au contrôle, quoi. Ça déborde carrément ou qui cassent les vitrines dans les grèves. Hein. Voilà, ça dépasse carrément le cadre du football, même s'ils se servent du football pour exprimer une frustration de la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout.
Ça dépasse le football, certainement. Mais après, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Là, franchement, ceux qui cassent les vitres, etc., etc. Je pense pas que c'est tous les mêmes personnes après.
Je pense que c'est les mêmes.
Moi, je pense
c'est
pas
les mêmes.
Tout,
ils veulent foutre le bordel. C'est des voyous. C'est tout.
Je partage. Ceux qui ont fait ça, LNG, bien sûr.
Non, toi, tu vas au foot pour voir un match de foot. Oui. Tu vas pour voir des beaux effets de foot.
Bien sûr.
Eux, ils vont. Voilà.
Non, ceux qui ont fait ça, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais on peut pas dire. Maintenant,
ils se servent du football.
Voilà, on peut pas tout mélanger non plus. Voilà, dire.
Et je suis pas sûr que les gens.
Parce que quand j'entends ça, Stéphane, j'ai pas envie de rentrer dans Philippe. Quand j'entends ça, j'ai pas envie de rentrer dans plus de débats ou quoi que ce soit, mais quand j'entends il ne s'arrête pas au contrôle, il ne truc pas, etc., ça peut.
C'est les mêmes.
Ça veut dire quoi?
Les trois quarts, si.
Ça veut rien dire.
Il respecte rien. Donc,
mais dans tous les cas, c'est des actes de délinquance.
Oui, c'est des actes de délinquance. C'est ça que je veux dire.
Je comprends ce que veut dire Hadj, où Hadj a raison. C'est ce qui peut être un peu.
C'est pas des supporters.
Encore une fois, on est en train de dériver un peu sur la politique. C'est quand Philippe il dit il,
mais ça devient
tout de suite le il qui dit oui, mais le il qui devient très.
Ils sont dans la voie publique.
Non, mais le est-ce que dans tes heels tu comptes par exemple le skinhead facho, la boule rasée qui va se dire allez on va aller casser du lyonnais? Est-ce que tu mets eux?
Je pense qu'il doit y avoir ça, bien sûr.
Mais ils sont là pour ça. Ils s'arrêtent pas au.
Ils sont là pour ça.
Dans tous les cas, chaque instance doit jouer sa partition, doit faire son travail. Et puis j'espère que cette enquête nous révélera justement quels sont les vrais acteurs de ce massacre-là, parce que
on est quand même un peu mal barré. Quand on entend Darmanin dire, pour nous on a tout fait bien, on se demande s'il va mettre tous les moyens à la
censé avoir des caméras un peu partout.
Voilà, j'espère que les commerces,
les auteurs de cette casse.
Il y a 2 kilomètres pour aller chercher l'hôtel, donc faut pas non plus 30 motards.
Donc on va suivre ça de très très près. À présent, les amis, on va parler terrain, on va parler championnat européen. Nos représentants s'en sortent avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Satisfaisant ou pas? C'est la question qu'on pose. Alors, je le disais, les représentants français en Coupe européenne, Conference League, Europa League et Ligue des Champions se sont illustrés avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Est-ce que cela vous semble satisfaisant ou pas? Parce qu'on sait qu'on a eu quand même des résultats beaucoup, beaucoup plus médiocres que ceux qu'on a connus la semaine dernière. Mais juste avant, Ibrahima, tu vas nous faire un topo récapitulatif de ce qu'il s'est passé la semaine dernière.
Pour cette 3e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 au Parc des Princes face à l'AC Milan. De son côté, le Racing Club de Lens a fait match nul face au PSV Eindhoven. Concernant l'Europa League, Toulouse a malheureusement perdu 5-1 face à Liverpool. Rennes s'est imposé 2-1 face au Panathinaikos. Et l'Olympique de Marseille a battu l'AEK Athènes 3-1. En Conference League, le LOSC a battu le Slovan Bratislava 2-1.
Et on précise que le match nul de Lens, c'est un but partout. Hein, c'est bien ça. Alors les amis, cher Philippe Carnu,
On en a parlé.
Satisfaisant ou pas?
Oui, on ne peut pas dire quand même que les chiffres sont là, on ne peut pas dire que ce soit négatif. Hein. Invaincu sur 3e tour de Ligue des Champions, Lens finalement, ils sont encore dans le coup. Hein. Ils sont dans le coup pour aller chercher une place en 8e de finale. Et puis, 3 clubs sur 4 qui gagnent en Ligue Europa, puis en Ligue Europa Conférence, bon, battu à Liverpool pour Toulouse, il n'y a rien de déshonorant. Comme tu le disais, Malik, il y a des semaines où on a eu des résultats nettement moins bons. Voilà. Donc c'est plutôt positif. On a peut-être parfois tendance à être un petit peu négatif. Voilà. Après, il faut attendre les deuxièmes tours. Ça, c'est un autre paire de
manches. On n'est pas encore sorti des poules. Oui. Il y a aucune des équipes qui est encore qualifiée pour
l'instant. Toulouse, ça va être compliqué, mais après, les autres, ils peuvent toutes passer, même Lens, ce qui sera un bel exploit.
Et là, Dieu. Satisfaisant ou pas ces résultats
des clubs, bien sûr, comme Philippe
français.
L'a dit, c'est très satisfaisant. On a déjà vu des.
De toute façon, Paris a gagné, donc c'est déjà satisfaisant pour toi, mon cher Eladi.
Pourquoi tu parles de Paris? Non, Marseille a gagné aussi, je suis satisfait.
Moi, je ne suis pas supporté Marseille. Moi.
Ah oui, ah bon, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, non, Marseille ont gagné, PSG ont gagné, Lens, ils ont fait un match nul. Franchement, il y a Toulouse, ils sont pris une déculottée, mais c'était prévu.
Tu l'avais dit, hein.
Ah oui, je l'avais dit. Ah oui, ah oui, clairement.
Mais dans le contenu, vous trouvez pas un peu le résultat de Toulouse un peu sévère malgré tout?
Franchement, Liverpool, ils auront pu poser. Ça se voit, Liverpool, ils ont limité. Je vous parle honnêtement, ils ont limité la casse. Ils auront pu leur mettre 7-1, 8-1 facile.
Mais ils ont raté des occasions aussi, Toulouse.
Ils ont raté une occasion où il y avait personne dans les cages et ils tirent sur la seule personne qu'il y a dans les cages qui n'est pas un gardien, Alexander Arnold. Non, mais quand même, faut le préciser.
Pire que celle de
c'est toujours pas comment il a fait, mais.
Non, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Ah non, non, même celle de Mbappé n'est même pas comparable à celle-là.
Ah ouais,
alors, on lui a donné un caviar dans le fauteuil, il avait juste à la pousser à l'intérieur. Il était tout à droite, Alexander Arnold. Je revois l'action, mais c'est incroyable. Même le coach était sur le côté, il était bouche bée. Il se disait, mais comment il a raté ça? C'était plus dur de la mettre sur Alexander Arnold que la mettre dans les cages. Vraiment.
Ibrahima, ton sentiment par rapport aux résultats des clubs français, tu trouves ça satisfaisant ou pas du tout?
Non, ça va, c'est plutôt satisfaisant. On a sincèrement été habitué à bien, bien, bien pire. Donc non, là, franchement, sincèrement, ça allait. Malgré la défaite de Toulouse, mais bon, si attendez, l'écart était trop... Il y avait un écart abyssal entre Toulouse et Liverpool. Donc non, sincèrement, c'est plutôt satisfaisant. Même Rennes qui s'est imposé au Panathinaikos, c'est assez satisfaisant. On a été habitué à bien pire. On espère que les clubs continueront sur cette lancée, même si pour l'instant... aucun des clubs français n'est encore qualifié.
Mon cher Stéphane, c'est très très bon pour nous, hein, au niveau des indices.
Mais moi, je suis un peu étonné même de l'enthousiasme, parce que moi, je pense que c'est surperformé. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. Je veux dire, si on nous avait dit à tous, je sais pas, j'étais pas là et je le regrette la semaine dernière, mais si on nous avait dit à tous, il y a un mois, bah il y aura un nul de Lens contre le PSV Eindhoven, qui est premier de quoi, qui marche comme il marche, qui est l'équipe qu'elle est, que l'OM bat la Hec, que Paris mette une raclée au Milan et que tout le monde, personne n'aurait dit que Toulouse ferait un résultat à Liverpool. Donc c'est quasiment le mieux qu'on pouvait espérer sur cette journée, en tout cas sur cette journée là c'est le mieux qu'on pouvait espérer, notamment la victoire
la première journée on avait été invaincu en plus, hein.
Oui, parce qu'on avait un peu de la chance mais sur cette journée là quoi, quand tu regardes le calendrier, le programme de la journée, tu dis que c'est le mieux. Bon, Lille, à la limite, bon, le PSG ok, Lille ok, l'OM c'était pas gagné mais oui, et puis Lens c'était pas gagné non plus, quoi.
Mm-hmm. Au niveau des contenus des matchs, justement, des clubs français, on va pas faire comment dire cette analyse sur le fait que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, voire même en Conférence League, au niveau des contenus, lequel des représentants français pour vous a affiché une très très bonne figure, mon cher Philippe?
Bah écoute, Lens, à chacun sa mi-temps, hein, la première mi-temps pour le PSV, la deuxième, j'ai bien aimé la réaction de Lens. Bon, l'équipe qui a fait la meilleure sur les matchs que j'ai vus, hein, je ne les ai pas toutes vues, sur les matchs que j'ai vus, j'ai bien aimé la réaction du PSG en deuxième mi-temps. Voilà.
Deuxième mi-temps, ouais. Ibrahima,
même si c'est pauvre du côté du Milan AC sur le plan offensif.
Ibrahima, ton sentiment même par rapport pauvre. Au club français, selon toi, laquelle des équipes a fait une bonne impression dans le contenu?
J'ai bien aimé le RC Lens qui m'a franchement rassuré, parce qu'après le but de Johan Bakayoko pour le PSV Eindhoven, je pensais sincèrement que Lens aurait pu prendre l'eau, mais mentalement c'est très costaud, ils ont su revenir au score et ça m'a plutôt rassuré. Après le Paris Saint-Germain, bon, Milan était assez faible quand même, mais je salue la prestation, c'était quand même un bon match de la part des joueurs du PSG, ils ont assuré le résultat. Et pour les autres, je les ai pas vus, mais bon, s'ils ont gagné, je pense que...
Moi, je pense qu'il faut arrêter un peu quand même de dire.
Oui, Stéphane, selon toi, c'est quoi l'affiche qui t'a fait le plus kiffer?
Ouais, là,
au niveau du contenu, bien sûr.
Moi, je pense qu'au niveau du contenu, c'est peut-être le plus intéressant à souligner, c'est peut-être effectivement quand même Lens contre le PSV, parce qu'ils ont répondu présent. Moi aussi, là, quand...
Cela dit, vous avez trouvé le PSV Eindhoven aussi costaud que ça? Moi, j'ai
non, mais le truc, le truc, il est là.
Après, cela dit, je ne minimise pas la victoire lensoise.
Non, mais il faut arrêter, on surcote rien du tout. Je veux dire, nous, ça, c'est français. Voilà. PSG a battu Milan 3-0. Ah ouais, mais c'était. C'est pas par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport à tous les commentaires que j'ai vus partout et tout. Ah, c'était quand même très, très faible. C'était très faible et tout. Bon. Milan, on nous dit toujours qu'on n'est pas, qu'on est le cinquième voire le sixième championnat européen. Milan, ils sont deuxième, ils sont troisième maintenant, je crois qu'ils sont passés troisième.
Gagné de la poule. Hein,
ils sont troisième du championnat de la Serie A. Donc là, par contre, quand Lens va faire un résultat à Séville, Séville, c'est une super équipe, machin et tout. Faut un peu arrêter. Oui. Et PSV Eindhoven, c'est pareil. PSV Eindhoven, c'est une très bonne équipe. Franchement, je sais que là, je t'en avais parlé dans les premiers trucs, t'avais mis en main. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne équipe avec des bons joueurs.
Non, mais une bonne équipe. Là, une bonne équipe, ok, mais je veux dire, c'est pas une équipe.
Ils sont premiers. Ils sont premiers devant l'Ajax.
Mais l'Ajax, ça va pas.
Premier du championnat hollandais.
Je t'explique dans le championnat hollandais. Non, on peut pas dire, ça veut rien dire.
T'as l'impression que c'est comme Milan.
Excuse-moi, aujourd'hui, on compare le championnat hollandais.
C'est comme si tu me disais Monaco était. C'est comme si tu me disais Monaco était devant l'Olympique Lyonnais aujourd'hui.
Le premier, oui. Et le Milan, c'est pareil. À aucun moment, on va dire le Milan, c'est peut-être le PSG qui les a rendus mauvais. Effectivement, le Milan n'a pas été très bon. Moi qui suis. J'étais pas à l'émission, sinon je l'aurais dit. Moi qui suis pas du tout un ferveur supporter d'Olivier Giroud, j'ai trouvé que ce soir-là, malgré tout, c'était quasiment un des meilleurs joueurs de son équipe.
Bah, cela dit, l'effectif.
Il a jamais de ballon, quoi.
L'effectif milanais manque de talent quand même.
Oui.
Franchement, moi je pense pas qu'elle manque de talent.
Oui.
Non, offensivement, je sais pas après si on a regardé le même match. Là, par exemple, hier, il y a eu Naples-Milan.
Ouais.
Il y a eu
2-2, doublé de Giroud.
Doublé de Giroud, 2-0. Normalement, le match il est plié. Milan, normalement, il plie le match hier. Clairement, contre Naples, normalement, Naples, ils s'en sortent pas. C'est un miracle que Naples revienne à 2-2. C'est vraiment un miracle. Parce que dans la physionomie du match, voilà. Maintenant, il faut parler franc. Et on a vu le match Milan-PSG. La première mi-temps a été très, très équilibrée. Et oui, Milan ont joué. Excusez-moi, mais vous pouvez pas dire que Milan ont été faibles.
Mais moi,
Milan,
j'ai pas dit ça. Moi,
ça, oui.
Excusez-moi, je vais jusqu'au bout. Moi, je dis en tout cas.
C'est une façon de dire que la performance de Paris a été très, très, très. Non. De la même désespérance.
Non, elle a été bonne. Non.
Elle
a été même très bonne, j'ai envie de te dire. Bah, t'as vu, il a écouté maintenant Luis Enrique. T'as vu la compo qu'il a mis? Vitinha, Zaire Emery, Ugarte. Et ensuite, en attaque, il met Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. Il sait que ça fonctionne. Ça, c'est normalement, c'est son titulaire indiscutable. Normalement, ça, juste. Et derrière, après, il y a quelques petits aménagements à faire. Bon, le temps que Nuno Mendes revienne, etc. Sinon, ça, c'est l'équipe titulaire, il n'y a rien à dire. Là, il a aligné la bonne compo, il a proposé une bonne tactique. On a joué contre un Milan pendant 45 minutes à peu près. On s'est regardé dans les yeux, même après le but de Mbappé. Milan a eu une occasion où il y a Donnarumma qui sort, Giroud qui essaie de mettre la tête, les buts sont vides. Non, faut dire les choses. C'est vraiment, moi, je pense que ce qui leur a manqué, c'est Léao a été très percutant, mais dans le dernier geste, il n'a pas été bon. Quand faut faire la passe, faut la faire. Quand faut tirer, faut tirer. Et il n'arrive pas encore à distinguer l'un de l'autre.
Un vrai soliste aussi, hein, Léao. Pas... Très, très soliste.
Voilà, beaucoup. Sinon, on a vu. Sinon, il y a beaucoup de fois où ils auraient pu nous mettre dans des problèmes. En tout cas, je pense que Milan aurait pu marquer 1-2 buts assez aisément, en tout cas avec les actions qu'ils ont eues contre le PSG. Maintenant, le PSG ont maîtrisé leur sujet. Ils ont fait un très bon match, un match costaud, que ce soit offensivement et défensivement. Et j'ai vu même les notes de certains médias, franchement c'est piteux. Franchement, j'ai vu des 5, des 6, ils méritaient tous, au PSG en tout cas, ils méritaient tous un minimum 7. Et là, je suis, voilà, minimum
ouais,
tous
ça, 7. Ça, c'est
voilà.
Ton avis. Hein.
Non, c'est ton avis.
C'était pas le quotidien du sport, les notes en question.
Non, c'était pas ça, mais c'était quand même peut-être.
C'était quoi la moyenne des notes des joueurs parisiens?
Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a eu, je me rappelle plus.
En dessous de 6.
Faudrait que j'aille regarder. 6, et puis Zaïre Emery 8, après peut-être. Je sais plus exactement de mémoire. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Ça, c'est français, quoi. Le PSG a fait un match à gagner. Comme j'adore, là on va pas être d'accord, je sais, comme je dis que Newcastle n'a pas été exceptionnel contre le PSG quand ils ont gagné. Et ben Milan n'a pas été mauvais contre le PSG.
On est d'accord, voilà.
Quand tu dis que le PSG n'a pas été exceptionnel, Newcastle n'a pas été exceptionnel face au PSG, et malgré tout, il y a 4 buts quand même dans la besace. C'est
bah
dire
l'inquiétude
qu'on pourrait avoir pour le PSG. Hein.
Comme on l'a dit, le coaching était très mauvais.
Mais c'est pareil, hein, dès que le PSG se sent bouger un peu, il n'y a qu'à regarder la deuxième mi-temps d'hier face au club brestois. Dès que le PSG est bousculé, on sent que ça tangue vraiment. Hein.
Ça, les amis, plus avant, maintenant on va... il commence à revenir. Non, là, on a
pas,
vu
pas plus tard qu'hier, face à Brest, c'était compliqué.
C'est ce que je suis en train de dire, pas plus tard qu'hier, ils sont revenus, ils ont quand même gagné le match.
Non, mais le pénalty, il est discutable.
Tu connais le...
Oui, il n'y a pas de problème, t'as beau être supporter de Marseille, mais il faut reconnaître les choses. Il y a pénalty, clairement. Il y a pénalty sur Colomouani. Pour
le
moins que ça, en Ligue 1, on a vu des pénaltys sifflés. Là, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de pénalty sur Colomouani.
Je le reconnais humblement, j'avais une journée très particulière, j'ai vu aucun match de la journée d'hier. Parce que j'étais très pris. Par contre, j'ai suivi un peu sur le téléphone, et j'étais avec de la famille, et je vois 2-2, Brest continue, veut le 3-2. J'ai regardé mes cousins.
C'est une équipe qui a du caractère.
Ouais, j'ai regardé mes cousins, j'ai dit c'est bon, Brest veut le 3-2, ils vont se prendre un but en contre. J'ai regardé après en replay quand même, hein, tout le match, j'ai regardé en replay. Ça n'a pas été vraiment peut-être sur un contre, mais j'ai dit voilà quoi. Quand j'ai vu qu'ils essayaient d'attaquer et tout, alors qu'après, c'est vrai qu'en replay c'était un peu mesuré, il a fait rentrer des défenseurs un peu, Eric Roy et tout. Mais donc voilà. Alors, le foot, c'est le foot. Hein. On a vu toi qui es supporter de l'OM, t'as vu.
Qui est supporter? N'écoute pas, like.
Non, c'est la vérité.
Non, mais c'est des conneries.
Mais t'as le droit, surtout. T'as le droit.
Je laisse parler. Bon, je suscite
les auditeurs et les auditeurs.
Je suscite le débat, c'est tout.
Moi, justement,
tu parles de l'OM. On va s'arrêter un instant quand même sur le match de l'OM face au club grec. Justement, deux clubs grecs justement engagés face au club français, à savoir Marseille et Rennes, et deux victoires côté français. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement du résultat des Marseillais avec un Vitinha titularisé par Grosso?
Ça n'a pas été un grand Marseille, hein, ça a été un match un peu... ça a tourné en leur faveur, ça n'a pas été un match super dominateur de l'OM, hein, sans notre ami, je sais pas comment il s'appelle, le gardien de but là, qui donne carrément un but à Marseille, puis avec un
but et le match, parce qu'avec un carton rouge, à partir du moment où tu donnes un penalty et un carton rouge, t'as donné
voilà,
le match.
Voilà. Mais maintenant, vraiment, moi personnellement, c'est absolument pas une critique pour l'OM. Ils ont gagné le match. Ont gagné le match et la Coupe d'Europe, ils l'ont gagné. Donc, et ils sont passés premiers. C'est compliqué. Il n'y a pas, je ne vais pas dire la phrase basique et tout. Il n'y a plus de petite équipe et tout. Mais c'est comme. Parce que l'AEK Athènes, c'est moins fort que Brest, par exemple. Hein. Donc, si on commence à dire, c'est pas normal que c'est moins fort que Brest et que certaines équipes de Ligue 1 en général, à part Lyon. Sinon,
Philippe, la victoire marseillaise face à l'AEK
Athènes. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'ils gagnent. Voilà, ils avaient fait des matchs nuls avant. Il fallait qu'ils gagnent à nouveau. Bon, je suis d'accord avec Stéphane, quel que soit l'adversaire, ils ont gagné. C'est tout ce qu'on va leur demander.
Ibrahima, Vitinha à la place de Aubameyang, finalement, ça t'a convaincu?
Il a marqué, donc forcément ça joue en sa faveur. Après, moi, c'est vrai qu'Aubameyang, il était vraiment en difficulté sur ces dernières semaines.
Un peu moins en Coupe d'Europe quand même.
C'est vrai, oui, il a marqué face à l'Ajax, face à Brighton aussi, il me semble. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'il était temps de laisser la chance à Vitinha. Bon, il a été présent au moment où il le fallait. Il a mis un but sur le carton rouge. Le gardien de l'AEK Athènes fait faute sur lui. Il y a pénalty. Marseille gagne, tant mieux. Après, pour revenir sur le débat de tout à l'heure, par rapport aux équipes comme le PSV, Athènes ou le Panathinaikos, le réel souci, c'est que les équipes françaises ont été tellement nulles qu'elles ont rendu ces équipes fortes, en fait. Donc le souci, c'est ça. C'est que le niveau a été tellement mauvais qu'on a donné confiance à ces équipes. Et aujourd'hui, Rennes bat le Panathinaikos, mais le Panathinaikos élimine Marseille au barrage de Ligue des Champions. Et si vous avez vu le match, le niveau est très bas du côté grec, donc c'est assez... Ça en dit long quand même.
Pour toi, c'est de la logique, tout simplement, quoi.
Oui, c'est de la logique. Enfin, en fait, ces équipes-là sont à leur place. Hein. C'est les clubs français qui leur ont donné trop d'importance en perdant contre elles, c'est tout.
Eladj, ton sentiment ?
Oui, je partage l'avis de Brahim quand je dis que ouais, Panathinaikos c'était vraiment pas terrible du tout, mais Marseille c'était encore moins terrible sous Marcelino. Sous Marcelino, c'était encore moins terrible. Maintenant, moi je pense que Vitinha titulaire, ça a été une bonne chose. Et clairement, moi j'attendais qu'il prenne ce choix fort parce que je disais bien Aubameyang devant les cages, il n'était pas droit. Bah justement, il est rentré en jeu. Hein. À 10 contre 11, il est rentré en jeu, il a eu une offrande devant les cages, il l'a loupé. Voilà, moi je pense que voilà, non mais
enfin, il a pas été très chanceux, mais c'est sa grosse frappe là de Mule là.
Je pense qu'il a enchaîné dernièrement, or que là Vitinha il a eu une occasion, il l'a mis au fond. Et moi je te dis clairement, dès que j'ai vu Vitinha titulaire, je suis allé directement sur l'application et j'ai mis Vitinha titulaire. clairement, dès que j'ai vu Vitinha titulaire.
Est-ce qu'on avait les compositions d'équipe hier à Marseille?
Non, on n'avait pas. On n'a pas eu celle de Marseille.
Non, c'était juste pour savoir.
On a eu celle de Lyon, mais on n'a pas eu celle de Marseille.
Je voulais juste savoir si comment ça s'appelle, Gennaro Gattuso avait confirmé Vitinha justement en tant que titulaire.
C'est vrai que Ismaïla Sarr et Aubameyang c'est très 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 peu efficace devant les cages.
Et c'est pour ça fait des choix.
C'est percutant, mais une fois
devant les cages, ça tire à côté dans les tribunes.
C'est vrai que Sarr, pour parler de lui, il ne progresse pas vraiment depuis Rennes.
Autant j'en connais qui dirait que
c'est un très 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 bel espoir parce qu'il a de vrais atouts, mais j'ai l'impression que sa marge de progression s'est arrêtée depuis.
On a l'impression qu'il a jamais joué en première ligue même.
Ouais, c'est compliqué pour lui. Alors les amis, on va marquer une pause et puis on va revenir justement parler de la Liga espagnole. On va se poser la question de savoir si la Liga se cherche une star depuis les départs de Messi, de CR7 et de Benzema. Jude Bellingham est-il l'arbre qui cache la forêt? On y revient dans un court instant.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie, prise au piège. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Salie. Je me supporte même plus. Faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Au sommaire de Bout du Foot de ce 30 octobre 2023, bus caillassé, Fabio Grosso ensanglanté, match reporté, le football français très très embarrassé, les commentaires de Bout du Foot suite à l'annulation d'OM face à l'Olympique Lyonnais. Coupes européennes, nos représentants s'en sortent avec 4 victoires, 1 nul et une défaite, satisfaisant ou pas, au Bout du Foot se prononce. Équipe de France, souhaitez-vous voir Warren Zaïre-Emery appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement? Au Bout du Foot se prononce. Championnat espagnol, Messi, CR7, Benzema parti. La Liga se cherche une star. Le niveau du championnat espagnol a-t-il baissé? Jude Bellingham est-il l'arbre qui cache la forêt? Au Bout du Foot donne ses réponses. Messi, vainqueur du Ballon d'Or lors de la cérémonie 2023. Une cérémonie presque sans engouement. Que pensez-vous des distinctions individuelles dans le football? Au Bout du Foot donne son avis. Paris sportif, 3 internationaux italiens dans la tourmente. Quelles conséquences pour la suite de leur carrière? Au bout du foot, première saison, 5e numéro. Bienvenue.
Retour en plateau au bout du foot avec notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr, Philippe Carnu, présentateur de Mon Paris Sport sur Mon Paris FM. Et là, il y a avec nous notre chroniqueur maison ainsi qu'Ibrahima. Les amis, le sommaire est passé, vous l'avez entendu. Jude Bellingham, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt au niveau de la Liga espagnole? Aujourd'hui, on a CR7 qui n'est plus dans ce championnat depuis un bon moment. Messi qui est également parti, Benzema. Je vais même parler aussi même de Neymar, entre autres, oui, qui sont tous partis de ce championnat. Est-ce que, selon vous, le championnat espagnol, la Liga, est-ce que le niveau a baissé, mon cher Philippe Carnu?
Bah, il reste quand même Lewandowski, il reste Griezmann. Bon, quand même. Après, bon, c'est sûr que il y aura bientôt Mbappé.
Exactement.
Non, il y aura donc, bientôt Mbappé. Non, mais peut-être la saison prochaine. Donc,
oui,
donc,
la saison prochaine, bien sûr.
Ouais, bon, il y a peut-être un tout petit peu moins de grands noms, mais enfin, il en reste quand même encore.
Mais pour toi, le niveau n'a pas baissé, malgré tout.
Bon, on le verra au niveau des clubs. On verra au niveau.
Non, mais dans le contenu, dans le contenu des matchs, dans le jeu des équipes, dans le jeu que ces équipes proposent.
Ça paraît évident, moi, quand même, que le numéro a baissé.
Ouais, ça a peut-être baissé un peu.
Il suffit de regarder le classico, là.
Après, il faut voir les résultats.
On laisse Philippe parler.
Pas du classico, mais il faut voir les résultats après. On verra. C'est les résultats qui jugeront.
Mais toi, tu es plutôt factuel au niveau des résultats, dans le contenu. Tu t'en fiches un peu au niveau des contenus des matchs.
On est au mois d'octobre.
Pour toi, c'est le résultat qui prime.
On verra. S'ils gagnent une Ligue des Champions et puis une Ligue Europa, on ne pourra pas dire que le niveau du football espagnol.
Là, c'est ton sentiment, le niveau du championnat de la Liga espagnole, baissé avec le départ de toutes les stars qu'on a évoquées là.
Non, avec toutes les stars maintenant, oui, c'est vrai qu'il manque de grandes personnes, etc. Mais moi, je ne pense pas qu'il a baissé, non, du tout. Je pense que ça s'est rééquilibré entre guillemets. Mais on peut pas dire que le niveau de la Liga a baissé. Quand tu vois que ces dernières années, les coupes européennes, ouais, le dernier champion d'Europe d'Europa League, c'est Séville, et il y a un an, le Real ont gagné la Champions League. Tu ne peux pas dire que la Liga a baissé de niveau. Non, je suis pas d'accord.
Ibrahima, ton sentiment?
Je pense que le niveau a quand même un petit peu baissé. L'apogée de la Liga, c'était aux alentours. Enfin, l'apogée de ces dernières années, c'était aux alentours 2015 et 2017, où là, il y avait vraiment trois équipes, allez, voire quatre, si on rajoute Séville, qui vraiment étaient d'un niveau assez extraordinaire, avec notamment le Real,
En Ligue Europa aussi.
Et en Ligue Europa aussi. Après, au niveau des contenus des matchs, c'est sûr que le Classico, c'est un peu moins clinquant qu'avant, mais au niveau du jeu, c'était pas forcément.
Ça dépend. Franchement, on a eu le dernier classico, par exemple. À part celui-là, le dernier classico, il a été bon. Moi, voilà, il a été
celui
bon.
Maintenant, celui de samedi. Même,
oui, non, celui de samedi.
Il a pas été bon.
Il a été moyen. Il a été moyen. Ouais. Il a été moyen. Clairement, il a été moyen.
Une mi-temps pour chaque équipe, quoi.
Intéressant. Exactement. Moi, je dirais intéressant.
Oui, quand même. Voilà, avec des rebondissements, c'était intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire que même sous l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on a eu des classicos 0-0 tout dégueulasse.
Ah oui,
vraiment.
Oui,
c'est vrai. On l'a eu. Du coup, on peut pas dire parce qu'il y a eu un classico qui a été mauvais. Du coup,
est-ce qu'il faut résumer la qualité de ce championnat uniquement à travers le classico, mon cher Stéphane?
Non, je sais pas. Mais moi, en tout cas, personnellement, je pense que le niveau de la Liga, alors je sais pas si c'est par rapport à toutes ces stars qui sont pas là et tout, le niveau de la Liga, il a clairement baissé. Et ce qui veut pas dire que le Real Madrid n'a pas les moyens de gagner la Ligue des Champions. Le Barça, je pense pas du tout, mais le Real Madrid peut faire quelque chose. Mais il suffit d'ailleurs de voir, je suis désolé, j'étais comme beaucoup quand j'étais plus jeune en vacances sur la Costa Brava. Je regardais, je me rappelle l'été, les matchs de préparation de Gérone qui étaient en D3 ou en D4 à l'époque et qu'on allait voir comme ça avec mon frère, parce qu'on adorait le foot. Là, quand tu vois Gérone qui est quand même en tête, quoi, à égalité de points avec le Real Madrid. Quand aujourd'hui on parle de l'Atlético de Madrid, il y a 2 ans, 3 ans, tu disais, ou même 4-5 ans, si tu tombes dans leur groupe en Ligue des Champions, même si c'est un peu solide et tout, c'était un peu un épouvantail. Je trouve que c'est plus le cas aujourd'hui. Le Barça, j'y trouve un peu pitoyable, mais bien que je suis pro, je le précise. Tissigrave, je suis plutôt pro dans le fameux duel que tout le monde connaît à Barça-Real. Je suis plutôt pro Barça que pro Real, mais là franchement il faut un peu de la peine quoi. Et je me demande, je me pose même la question de savoir si Xavi c'est un bon entraîneur.
Ils sont pas non plus 15e hein.
Bah, 4e pour le Barcelone, c'est presque dernier déjà. Mais bon,
mais 4 points, mais à combien de points du leader?
Non, 4 points.
Moi je parle pas de ça.
4 points du leader, c'est un match.
C'est deux matchs. De ce que je vois et tout, je vais dire, bon, certes, il était complètement blessé, par exemple, tu parlais, Philippe, de Lewandowski, oui. Où il était complètement blessé et il l'a fait rentrer blessé. Pourtant, je crois qu'il rentre à 1-0, je crois, pour encore
oui, il 1-0. Rentre à 1-0. Il rentre à 1-0, mais maintenant, il faut savoir aussi.
Il m'a fait de la peine, quoi, moi. Lui m'a fait de la peine. Lewandowski m'a fait de la peine.
Il était blessé.
Il était blessé, clairement.
Parce qu'il l'annonçait carrément mort pour jouer le match, le Classico. Tout d'un coup, ils ont dit bon, il est
mais
sur le banc.
Il le fait rentrer alors qu'il
mène 1-0. Je pense qu'il a voulu
forcer.
Ils auront joué contre Gérone ou contre, même si Gérone est son premier, ils auront joué contre Gérone ou contre Almeida ou je ne sais quoi. Il aurait pas joué.
Maintenant, clairement. Si tu veux, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je me rappelle quand même d'une époque. Alors, effectivement, je reviens à ce que tu as dit, il y a un certain nivellement, ça s'est resserré. Je me rappelle d'une époque, tu regardais les résultats du championnat. C'est-à-dire, le seul match où tu pouvais voir que Real Madrid perd, c'était contre Barcelone, quoi. C'était le seul match, quoi. Maintenant, il y a plein de points. Alors, c'est peut-être effectivement ce qu'il a dit, un resserrement ou aussi une mise à niveau des équipes.
Est-ce que ce resserrement, justement, il n'est pas la conséquence des stars qui, justement, faisaient à chaque fois la différence, même quand ça ne jouait pas bien, qui sont partis? Est-ce que c'est pas ça la vraie question?
Forcément.
Et le problème, c'est qu'ils arrivent à en retrouver.
Parce que moi, je regarde aujourd'hui un club comme le Real Madrid, je suis désolé. Mais quand je vois, je pense qu'avec Courtois dans les buts cette saison, le Real aurait certainement eu 4 points de plus facilement.
Ouais, non, mais
ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que les joueurs de talent, c'est pas un hasard si ces joueurs-là ont souvent le salaire qu'ils ont.
Il y a ça, mais défensivement aussi, le Real Madrid, c'est assez compliqué cette saison.
Franchement, je souffre pour ne pas être grossier, vraiment. Parce que
Alaba et Rudiger,
depuis sa blessure.
On va dire qu'il n'est pas au mieux de sa forme.
C'est pour ça que j'ai trouvé pour ma part le match, le Classico, je vais peut-être pas dire faible, nul, je vais dire fade, parce qu'effectivement,
il était assez moyen. Hein.
T'as pas de percussion offensive je parle pour ce niveau hein, des joueurs. Hein. Ouais. Pour ce niveau, t'as pas de percussion offensive, parce que t'as effectivement, comme le dit Elias, peut-être Lewandowski qui rentre blessé, donc qui apporte strictement rien offensivement. T'as une défense très moyenne. Alors la défense de Barcelone, je t'en parle pas.
Mais toi, tu vas jusqu'à même à mettre en doute les qualités de Xavi.
Moi, je mets en doute.
Xavi n'est pas un coach.
Moi, je pense. Je mets en doute ses qualités.
C'est un accompagnateur. Mais ça
je suis pas sûr.
Coach.
En tout cas, je mens pas. Je les ai pas vus. C'était peut-être le troisième match.
Avant Xavi, il y avait quand même une forme d'instabilité au niveau des résultats. Il faut dire que depuis qu'il est sur le banc, quand même, il y a une forme quand même de stabilité, d'accalmie. On prend le temps de travailler. Et malgré tout, il y a des résultats.
Je suis pas d'accord du tout avec toi. Par exemple, j'ai envie de te dire, tu prends Koeman. Koeman, il a fait à peu près 45 matchs, à peu près. Sur les 45 matchs qu'il a fait et sur les 45 matchs que Xavi a fait, Koeman a un meilleur coefficient et de loin que Xavi, clairement.
Ah bon ?
Oui, voilà. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà. Et il jouait avec Brett Sweat en attaque. Et Aubameyang. Non mais clairement, non, il jouait avec Brett Sweat et Aubameyang en attaque. Non mais faut le dire.
Mais Aubameyang,
faut le dire.
Il a
faut
fait un passage de 6 mois au Barça.
Oui,
excellent,
il a fait...
excellent.
Non, excellent, j'irais pas à dire excellent.
De il mémoire, fait... c'est genre 11 buts en 13 matchs ou un truc comme
11
ça. De mémoire, je dis donc, je suis pas sûr. Hein,
je pense que c'était 11 buts en 15 matchs. C'est quand même bien, 11 buts en 15 matchs.
Mettez
au Barça. Tu dois sur 15 matchs, t'en mets minimum 15. Surtout
laissez-moi terminer.
C'est le Barça. Le Barça, il joue contre des équipes, il gagne 5-0, 6-0. Il va mettre qu'un seul but, c'est l'avant-centre.
En plus, je suis sûr que c'est même pas lui qui tirait les pénalties.
Aubameyang ?
Bah oui.
Mais je sais plus qui tirait les pénalties à ce moment-là, mais il y en a eu.
Parce que les joueurs dont tu parles qui font 15 matchs, 15 buts, c'est 4 ou 5 pénalties sur les 15 buts.
D'accord, c'est possible, mais moi je pense qu'il tirait les pénalties.
Je veux bien qu'Aubameyang ait le niveau qu'il a, mais.
Je te dis la vérité.
Je
te dis la vérité, je regardais les matchs d'Aubameyang au Barça, il en met un dans le match, mais dans le match, il a l'occasion d'en mettre trois et sur les trois, il va mettre la plus difficile. Clairement, je vous le dis, sur les trois, il va mettre la plus difficile. Quand je vous dis, il y avait des gens qui étaient là pour le servir. Vraiment. Bah, parce que quand tu joues dans des clubs comme ça, il y a des gens qui sont là pour servir
déclin,
vraiment sur
encore
un
heureux.
Plateau.
Déclin,
voilà.
Avançons les amis. Toujours dans cette Liga. On va parler, justement, on en a parlé déjà, je crois, la semaine dernière, mais il est tellement géant qu'on va s'arrêter encore sur lui. Jude Bellingham, est-ce que finalement, c'est pas lui l'homme providentiel de ce championnat
espagnol? Par exemple, hier,
espagnol.
Si il tape à Bellingham, c'est la seule éclaircie.
D'où la question, est-ce que les stars ne
parce que
pas.
Dans le match, il est vraiment pas présent dans le match, hein. Mais il fait
aussi quand même
pas tellement. Il est étincelant, de toute façon,
franchement,
pas autre chose.
Moi, je pense que Carlo Ancelotti, et ce qui est bien avec Carlo Ancelotti, c'est dès qu'il fait des erreurs, il s'en rend compte. Il s'en rend compte et là, il fait des changements tactiques qui amènent quelque chose derrière.
À la différence d'Enrique, quoi. C'est ça.
Non, à la différence de Xavi. À la différence de Xavi. Xavi, lui, bah voilà, il fait rentrer Lamine Yamal et Rafinha en fin de match, le truc. Faut savoir ce qu'il essaye de mettre en place. C'est un accompagnateur, Xavi. C'est un bon accompagnateur, mais ça n'est pas un coach. Pour moi, il a pas de truc tactique. C'est rare qu'il va faire un coaching payant. Clairement, hein, si vous regardez les matchs et vous suivez, je regarde hein, les matchs du Barça et je le dis vraiment de ce que je vois clairement. Comment il va arriver? Il va mettre Gavi en attaque. Ailier droit, il va mettre Gavi, alors que t'as d'autres joueurs sur le banc comme Rafinha, etc. Tu vas pas les faire jouer, tu vas mettre Gavi devant. Tu vas mettre 4 milieux sur le terrain dans un ordre incompréhensible. Et ça marche pas. Et il s'étonne que ça ne marche pas. Non, mais réellement, là maintenant, voilà. Carlo Ancelotti a vu qu'il avait fait une erreur. Il a fait rentrer Aurélien. Il y avait Aurélien Tchouaméni avec Kroos et le milieu de terrain, c'était Kroos, Bellingham et Valverde. Il n'y a pas vraiment de créateur. Tu es obligé de mettre un mec comme Kamavinga ou comme Modric.
Kamavinga, il est rentré à arrière-gauche. Il a remplacé Ferland Mendy, qui, je crois, était blessé et qui a été catastrophique aussi.
Il a été catastrophique. Oui, oui. Il est rentré. Il fait rentrer Kamavinga.
Oui, Kamavinga.
Mais Kamavinga, ce qu'il a apporté.
Mais je préfère. Non, mais c'est.
Il est obligé de faire.
Non, mais c'est impressionnant.
Non, mais Kamavinga a véritablement déstabilisé.
Ah oui, hein.
Il a vraiment déstabilisé le schéma tactique.
Un penalty qui n'a pas été sifflé. Dans la surface, il y a penalty sur Kamavinga. 100 fois. Il y a penalty sur Kamavinga.
Jude Bellingham, mon cher Philippe. Véritable phénomène, hein. Milieu de terrain, buteur.
Espérons que ça va durer, mais.
Il y a 3 semaines, je disais Pichichi, je disais que j'y crois, Pichichi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut rivaliser. Ouais. Je l'ai dit, hein. il y a 3 semaines à peu près, je l'ai dit, Pichichi, parce qu'il n'y a personne qui va rivaliser.
Stéphane, tu y crois aussi,
non.
Le jeu de Bellingham
Oui, au joueur, oui, c'est un super joueur. Mais je dis, ça, on va voir, je dis rien, je dis pas j'y crois pas.
On a l'impression
Pichichi,
qu'en ce moment, c'est
très étonné. En tout cas, s'il l'était, ça serait un peu le symbole de ce qu'on dit, en tout cas de ce que moi je pense, c'est-à-dire que tu as un rabaissement vers le bas du niveau du championnat. Mais
justement, ça renforce la question.
Parce que quand tu vois un match comme le Classico, par exemple, je termine juste avec ça, à aucun moment, c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'à aucun moment, avant 20 minutes de la fin ou 25 minutes de la fin, tu te dis, ce mec-là, il va peut-être faire la différence, il va faire gagner. À aucun moment, quoi.
Et si, maintenant, il se retrouve. Excuse-moi, Stéphane, mais si. Moi, je regardais le match carrément, et c'est la première fois que je regardais le match, et j'étais pas seul, j'étais avec un ami. Je regardais le match, et je te dis, hein, j'ai eu comme quelque chose qui m'a dit, tu vois, la frappe de loin de Bellingham. Tu vois, juste avant, il y avait mon pote, il était sur son téléphone, il venait d'allumer pour répondre à un message, je l'ai tapé, je lui ai dit, regarde, il va se passer quelque chose. Juste après, et c'est le Barça qui avait le ballon. Et il la perd juste après, et Bellingham, il envoie une frappe puissante dans les cages. Et juste après.
On a l'impression que c'est la seule lumière qui illumine aujourd'hui le championnat espagnol, les amis.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Elad, parce que Elad, mais simplement, ce que je vais modérer, c'est que lui, il dit ça parce qu'il connaît bien le joueur et il a une énorme confiance en ses capacités. Donc, lui, c'est lui qui va faire la différence. Mais je dis, au-delà de ça, par ses actions, si tu le connais moins ou que tu apprécie moins, que tu regardes juste le match comme ça, c'est pas flagrant, quoi. C'est pas un par exemple, c'est rien à voir avec les joueurs, hein, mais c'est les actions. C'est pas un Mbappé qui rentre contre le Bayern à un quart d'heure de la fin au Parc des Princes, là.
Ouais, tu veux dire qu'il est pas autant
spectaculaire. Il va se passer quelque chose, là. Ça y est, l'autre.
Oui, peut-être parce qu'il est plus efficace que spectaculaire aussi.
Peut-être. Non, mais tout à fait. Mais je dis simplement que c'est pas le buteur qui met une fois au-dessus, une fois qui met le poteau, une fois qui met là, une fois qui fait ci, une fois qui fait ça. Il est très très en verve en ce moment. Il est en aussi, c'est un énorme talent et tout. Et puis bon, notamment le but de la victoire, il est quand même un petit tout petit peu tiré par les cheveux. Il est au bon endroit au bon moment, mais bon, il marque du tibia plus ou moins en profitant un peu d'une erreur d'intervention d'un truc.
Ouais, faut pas minimiser les buts.
C'est
très difficile de marquer des buts au football. Ibrahima, rapidement, on ponctue là-dessus.
Après, je voulais insister sur le fait que si Bellingham marque autant de buts et autant d'espace, parce qu'offensivement, du côté du Real Madrid. Rodrigo et on a constaté que Rodrigo et Vinicius c'était pas vraiment, ils pouvaient jouer que sur les couloirs en fait finalement et que
et Rossellou
excuse-moi
aussi.
Non Brahim. Rossellou je préfère ne pas en parler
ouais excuse-moi Brahim hein. je suis très d'accord avec toi quand tu dis Rodrigo mais n'associe pas Rodrigo à Vinicius pour de vrai Vinicius n'est pas un buteur hein. Il lui faut quelqu'un pour marquer mais Vinicius quand il va avoir des occasions il va les mettre. Rodrigo tire 56% Rodrigo tire 56,28% des tirs du Real Madrid, il en tire 56,28% depuis le début de saison et il a mis un seul but. C'est pour vous dire tout ce qu'il loupe.
Non, il loupe énormément et Bellingham est obligé de prendre ses responsabilités. Rossellou.
Alors les amis, merci en tout cas pour ce chapitre de ce Au bout du foot. On va à présent parler de l'équipe de France. L'équipe de France, pourquoi l'équipe de France? Parce qu'il y a un prochain rassemblement de Didier Deschamps avec ses joueurs. Alors la question qu'on pose aujourd'hui, c'est souhaitez-vous voir Warren Zaïre-Emery appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement de l'équipe de France? On est tous unanimes là-dessus, il n'y a pas de débat les amis. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, 17 ans, éclabousse ce championnat et même la Ligue des Champions de son talent né. Alors, est-ce que selon vous, c'est déjà trop tôt pour l'appeler ou il est bon, il faut l'appeler, un point, c'est tout. Mon cher Philippe Carnu.
S'il est bon, on l'appelle. Ce serait quand même un comble de ne pas appeler un Zaïre Emery avec, avec les prestations qu'il fait actuellement. De toute façon, maintenant, c'est même plus une question d'âge. Les joueurs sont de plus en plus tôt donc, compétitifs, donc on les appelle pour le final. Ça me paraîtrait quand même tout à fait normal. Que Zaïre Emery, c'est la moindre des choses, soit dans la prochaine, dans le prochain rassemblement des Bleus, même si on compte aussi sur lui pour les espoirs.
Ibrahima, Zaïre Emery, c'est ta génération.
Ouais,
tu te verrais en sélection comme ça tout de suite là, avec les anciens comme ça.
Juste pour rectifier, j'ai 2 ans de plus que lui en fait.
Ouais, mais bon, c'est ta génération quand même. Une génération, c'est 5 ans. Donc c'est ta génération.
Non, mais maintenant, c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'il produit sur le terrain. Enfin, aujourd'hui, c'est lui le leader du milieu du Paris Saint-Germain. Je vois pas pourquoi Didier Deschamps ne l'appellera pas, sincèrement. Surtout que je vois personne qui se démarque vraiment au poste de milieu de terrain. Enfin. Excepté les titulaires, je vois les remplaçants, Youssouf Fana, j'aime bien, mais si on peut appeler Zaïre Emery, moi personnellement, je serais satisfait aussi. Il est vraiment exceptionnel, ce qu'il montre au Paris Saint-Germain, on avait rarement vu ça, surtout que personnellement, je m'inquiétais un peu du milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette saison. Lui et Ougarté, sincèrement, c'est mes satisfactions. Donc oui, normalement, c'est mérité qu'il soit appelé en équipe de France aujourd'hui.
Ladj, ton sentiment, Zaïre Emery, il doit être appelé?
Franchement,
il a seulement 17 ans, on le précise.
Comme je dirais,
ses talents ne sont pas remis en question.
Comme je dirais, moi, tu me parles pas d'âge. Voilà. Tu me parles pas d'âge. T'es bon, tu joues.
Oui, ça
exactement. T'es pas content, triplé. Non, mais sérieusement, Tchouaméni, il est blessé. Moi, je pense que là, maintenant, tu dois appeler Zaïre Emery et il doit avoir sa place.
D'ailleurs, il viendrait remplacer qui, là, éventuellement?
Tchouaméni, il est blessé.
Non, mais je vais dire dans l'absolu.
On a le temps quand
Tchouaméni, même. Tchouaméni, pas blessé.
Fofana. J'adore Fofana, c'est un bon joueur, Fofana. Mais aujourd'hui, je pense que Zaïre Emery, il est...
Pourtant, on doit l'appeler, Didier Deschamps doit l'appeler.
Je pense que on ne sait pas ce qui va se passer, c'est le 9 novembre, la liste.
Ouais. C'est pour ça, c'est la semaine prochaine, c'est pour ça que j'ai... Et là, comme Tchouaméni,
il est blessé.
Il vient de
blesser Tchouaméni. Je veux dire, même si les postes ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas comparable. Non seulement il faut l'appeler... Mais après, il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas le mettre titulaire, quoi. Parce que si Tchouaméni est blessé, ça jouera peut-être en fait Zaïre Emery, Kamavinga, qui est aussi énormissime. Donc ça après c'est le sélectionneur qui décidera, mais ou d'autres. Mais s'il est blessé, mais en tout cas sinon la question se posera même là. C'est on en a discuté Malik. C'est pour moi c'est pas le même poste, mais on est au même niveau que le phénomène Mbappé. Ouais. On est au même niveau. Sauf que c'est pas le même poste, c'est un poste qui est beaucoup moins mis en vue.
J'ai envie de vous dire qu'il est même plus précoce.
Oui, il est même plus précoce, où effectivement, il a passé tous les paliers. Si vous voulez, je peux vous le dire, parce qu'on a fait un article comparatif sur le site. Il a passé tous les paliers avant lui. Il a joué son premier match titulaire avant lui, son premier match en C1 avant lui. Il a tout joué. Et sa première sélection, Mbappé, je crois, c'est 18 ans et quelques mois. Donc il a moyen de.
Mais je crois que même Kamavinga arrive avant Mbappé, non ? Parce que je crois qu'on a aussi 17 ans avec un peu plus de jours.
Mais la preuve, c'est qu'il a pris Kamavinga, qui n'était pas le Kamavinga d'aujourd'hui, mais qui avait fait quoi quand il prend Kamavinga en équipe de France, il y a des chances.
Bon match, c'était dur.
Non, ouais,
une deux bonnes saisons, quoi, quand même.
Non, quand il le prend des chances, c'est pas là, c'est sa première saison.
Ouais, il avait fait une demi-saison.
Il le prend, en tout cas, il est pas à ce moment-là. Quand il le prend, il est pas du tout, il est pas du tout au-dessus de ce que nous fait Zaïre Emery pour l'instant. Donc maintenant, effectivement, ça se joue, tu vois. Mais il est pas avant, donc il y a aucune raison que Deschamps ne prenne pas Zaïre Emery.
Est-ce qu'on peut le comparer à N'Golo Kanté, Zaïre Emery?
Non.
Dans l'abattage et tout ça.
C'est pas vraiment le même profil.
Non, c'est pas complètement le même.
Bah, c'est-à-dire que des fois, hier, là, je regardais. Dans le replay, des fois tu peux le comparer à Verratti quand il tourne sur la droite, à gauche, il revient et
tout. Il a une capacité de projection quand même qui est phénoménale.
C'est affolant.
Ah oui, c'est affolant.
Et il a une façon aussi de contrôler. Il me rappelle Pogba dans ses belles heures, hein, quand il prend le ballon, il a une façon de. Un regard périphérique comme ça sur l'ensemble de la pelouse,
incroyable.
À gauche,
c'est
à droite.
Plus Pogba que Kanté.
Un peu Makelele aussi. Il me fait rappeler à quelques angles précis.
Qui est énorme, ou là où il ressemble un peu plus à un Pogba par exemple, c'est qu'il a, il dégage quand même de la puissance, quoi. Il dégage une puissance incroyable, comme il disait à l'épaule ou dans le contact physique. C'est un joueur, il a 17 ans et demi, il est jamais battu au duel physique, jamais au duel à l'épaule et tout. Moi toi bien sûr Malik, Philippe c'est pareil, et moi quand je regarde ma fille, elle a 18 ans, mon fils il en a 22, je leur dirais que c'est quand il avait 17 ans, s'il était capable de faire au-delà même du talent pur, quoi. C'est des monstres physiques. Je compare tout à fait son avenir, c'est tout ça, son destin avec Kylian Mbappé. Sauf qu'effectivement, il joue un poste où on marque pas, on va pas se distinguer en disant peut-être qu'il aurait marqué déjà 12 buts s'il était attaquant, et qu'on dira c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il marque des buts.
Non, et puis maintenant, ils sont de mieux en mieux formés, donc dans le foot moderne.
Merci les amis. 21h45 sur Mon Paris FM. Vous êtes dans Au bout du foot. Hein. La cérémonie de la remise du Ballon d'Or tarde justement à nous dire qui est le lauréat. Malgré tout, mon cher Jason, on va transiter par la dernière chronique. Quel choix pour quel résultat? Et à l'intérieur de cette chronique, on va aborder les paris sportifs au niveau des Italiens, et puis également parler de ce fameux Ballon d'Or Messi, potentiel lauréat du Ballon d'Or 2023. Une cérémonie presque sans engouement, selon nous. Que pensez-vous des distinctions individuelles dans le football en général? On en parle à l'instant même.
Au bout du foot, quel choix pour quel résultat?
Alors les amis, on va d'ores et déjà parler des paris sportifs, et puis on va terminer avec le Ballon d'Or, si tant est qu'on ait les résultats d'ici un quart d'heure, la fin de notre émission. Alors Ibrahima, tu vas nous dresser un topo rapide sur les paris sportifs. 3 internationaux italiens dans la tourmente, quelles conséquences pour la suite de leur carrière?
Alors on va déjà rappeler le nom des 3 internationaux. On a Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus de Turin.
Encore.
Nicolo Zaniolo, joueur d'Aston Villa, international italien. Et Sandro Tonali, milieu de terrain de Newcastle, international italien. Alors en ce qui concerne Nicolo Fagioli, il a reconnu avoir parié. Il a écopé de 7 mois de suspension. En ce qui concerne Sandro Tonali, lui aussi il a reconnu les faits, a été interrogé durant le dernier rassemblement de la Squadra Azzurra en compagnie de Nicolo Zaniolo. Tonali, lui, a reconnu les faits et vient d'écoper de 10 mois de suspension. Et Nicolo Zaniolo, lui, reconnaît avoir eu usage de sites illégaux de paris sportifs, mais n'a pas reconnu avoir parié sur quelconque match de football. Et on rappelle aussi qu'un joueur sans un joueur sous contrat avec un club professionnel ou un contrat LFP ou de convention de formation n'a pas le droit de parier sur son sport, donc sur le football, sur ces cas précis.
Alors les amis, une réaction quand même, hein, parce que c'est vrai que, on va dire, c'est hors des stades, hors du terrain, mais malgré tout, ça fait quand même tâche. Hein. Oui. Les sportifs sous contrat professionnel, de façon générale, n'ont pas le droit de parier, encore plus quand c'est sur des sites illégaux, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, tout simplement, Stéphane ?
Moi, j'avoue, pour être clair, j'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est un peu des cas isolés. Maintenant, si ce n'est qu'il y a un règlement et que il y a, par exemple, en France, pas en foot, t'as Lucas, je crois que c'est Nicolas Karabatic,
oui,
quoi,
ou les frères Karabatic,
qui ont été sanctionnés pour ça. Donc, c'est vrai que ça paraît tellement évident qu'il faut leur interdire de parier, qu'ils n'ont pas à le faire. Maintenant, après, pour en parler plus, faudrait que si pour que j'étudie plus les matchs sur lesquels ils ont parié, les déroulements des matchs, tout ça, quoi. Pour
non, mais dans, si l'absolu, dans l'absolu,
c'est une interdiction de faire quelque chose que tu as pas le droit
de faire.
Sauf
que là, apparemment, il y a un des joueurs qui est visiblement addict, hein, c'est ça, hein.
Ah oui, Nicolo Fatini.
Qui va suivre même des.
Une sorte de cure, de désintoxication.
Maintenant, j'ai du mal déjà à m'en intéresser vraiment. Si ce n'est que sportivement, ça confirme un peu mon classement en Ligue des Champions de Newcastle. S'ils sont en Tonali, ils vont être encore plus mal, quoi.
Philippe. Ils n'ont pas eu besoin de Tonali.
Ça recommence
quoi,
avec des footballeurs italiens.
Un très mauvais PSG.
Attendez, Philippe intervient.
Pour enchaîner, la saison dernière, ils ont fini quand même.
Là, Philippe parle. Oui,
ça recommence avec des footballeurs italiens. Bon, bah, c'est les vieux démons qui reviennent. Maintenant, bon, il y aura peut-être une suspension, il y aura peut-être, pourquoi pas, un licenciement du club.
Non, pour l'instant, on n'en est pas là.
Non, mais bon.
On parle plutôt de suspension. Toi, tu irais jusqu'au licenciement carrément.
Ah, bah, je sais pas s'il y a un gros scandale qui arrive.
Parce qu'on oublie souvent, mais souvent, c'est quand même des. Quand même des jeunes joueurs, hein, 22 ans, 23 ans.
Le scandale, il est clos pour Tonali. Il a dealé avec les instances.
Ça va, s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres trucs.
Il a balancé tous les noms à qui il avait envoyé.
Il a balancé quand même. Il a balancé tous les liens à qui il avait envoyé. Il aura dit, mais c'est l'Italie, c'est pas le premier.
À côté de ça, il y a quand même un souci humain parce que le garçon, il est fortement endetté.
Franchement, moi, je comprends pas. Franchement, t'as un joueur, j'ai envie de dire, entre guillemets, de seconde zone, ok, je veux bien. T'as un joueur
international quand même.
Oui, c'est ça que je suis en train de dire. En gros, t'as un joueur de seconde zone, je veux bien, entre guillemets, et encore, mais t'as un joueur en premier plan, Tonali, il est connu. Tonali est connu et c'est un joueur international, c'est un joueur qui joue dans des gros clubs. Il peut pas se permettre de jouer.
Mais c'est une addiction, il est certainement malade.
C'est une addiction. Après, il a entraîné les autres aussi. Ouais. Dans ton addiction, tu peux être dans ton addiction, mais être tout seul dans ton addiction. Mais ensuite, il a entraîné ses coéquipiers à l'intérieur, il leur a envoyé des liens, allez-y, jouez, etc. Oui, c'est vraiment de là où c'est allé. Et à la fin, pour aller tous les balancer, entre guillemets, tu vois, dire j'ai envoyé le lien à lui aussi, et chacun maintenant, ils doivent montrer leur compte. Bah oui.
Et Brahima, quelles conséquences justement pour la carrière de ces joueurs?
C'est vrai que 10 mois de suspension, c'est long, mais en ce qui concerne Tonali, normalement, il devrait ne pas disputer l'Euro 2024 avec l'Italie quand même, ce qui est assez grave. Pour la sélection qui en plus n'est même pas sûre d'être qualifiée encore. Après, ici, il y a quelque chose que je voudrais soulever, c'est quand même le traitement médiatique qui a été fait parce que il y a un joueur anglais qui joue à Sheffield, Brentford, Ivan Toney,
il joue exactement à Brentford.
Il a l'attaquant de Brentford, il a été lui aussi inculpé pour les mêmes faits. Et enfin, quand on voit comment les affaires ont été traitées, on limite Ivan Toney, c'est un délinquant, une espèce de voyou.
Ah oui.
Et là, quand c'est Tonali, Fagioli ou Zaniolo, on est en train de parler de oui, mais les pauvres, c'est des victimes.
Ouais, bien sûr. Et je trouve, c'est ça, exactement. Et je trouve
pas,
ça.
C'est pas correct. Mais tout dépend aussi de la presse que tu lis, non, entre autres.
Non.
En général, ça va être la même presse que t'as lu pour. C'est la même presse que t'as lu pour Tonali que tu vas lire pour Ivan Toney. Ivan Toney, lui ont mis 8 ou 9 mois de suspension. Faut penser, Ivan Toney aussi, c'est un jeune joueur. Et Ivan Toney, c'est un joueur qui avait mis à peu près 20 buts en première ligue.
Combien de mois de suspension pour lui?
Ivan Toney, il me semble que c'est 8 mois.
Il a pris 8 mois.
mois et on...
Mais, le, oui, mais l'Italien, lui, l'Italien il a pris 10 mois quand
oui,
même.
Non, oui, mais, c'est non, ça. Mais, d'accord, il a pris 10 mois, mais il a engrainé d'autres gens à l'intérieur. C'est Ivan Toney, lui, il était tout seul dans son coin. Quoi et Ivan Toney, même, il n'a pas fait des aveux formels, entre guillemets.
T'es en train de dire que c'est un meneur.
Oui, oui, c'est un meneur, clairement.
Et on parlait d'Ivan Toney comme un délinquant. Et à aucun moment, on a parlé de soucis d'addiction ou de problèmes de santé.
Le truc, le problème, il est peut-être là. Moi, j'avoue, j'ai suivi quand même d'assez loin cette histoire-là, mais là, on est en train de parler, on est quand même plus en train de parler de délinquance. Je veux dire, si pour le club de Newcastle, ou quoi, de Milan, de son ancien club, Antonali, par exemple, quelles ont été les conséquences de ce qu'il a fait. Après, ça, c'est le règlement sportif qui l'amène. Moi, je suis très étonné de voir qu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont sanctionnés, en tout cas de ce qu'on connaît, de ce qu'on dit, sur leur, des sanctions sportives. Je veux dire, et si ça a un site de paris illégal, s'il encourage les joueurs à aller jouer sur ce site de paris illégal, c'est limite de la prison qu'il doit faire.
Il doit peut-être y avoir un peu le reste. Hein.
Oui, mais après, en ce qui concerne Fagioli et Tonali... Tonali, il a parié contre l'AC. Il a parié dans des matchs dans lesquels il était impliqué. Et c'est pareil pour Fadjoli aussi.
Ah, ça, c'est
forcément, c'est, là, sportivement, on est obligé de sévir.
Ah, bah, bien
ça,
sûr.
Oui. Sportivement, oui. Après, il y aura peut-être aussi un autre jugement, oui.
Après, je ne sais pas ce que dit la loi sur les paris sportifs. Italie, si toi-même, tu es dessus, je ne sais pas ce que dit la loi. C'est ça aussi maintenant.
Dernière discussion, les amis, d'au bout du foot, de ce 30 octobre 2023. On a attendu longtemps la remise du Ballon d'Or. On n'a toujours pas le résultat définitif, mais on s'imagine bien que Messi serait le lauréat définitif. Ce serait rapidement Ibrahima, Messi, ce serait son quoi, son huitième Ballon d'Or. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler les années?
Alors il a été vainqueur du Ballon d'Or en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2015, en 2019 et en 2021.
Waouh, les amis, est-ce que Messi mérite encore une fois d'avoir un autre Ballon d'Or rapidement? Les amis, on fait court là-dessus.
Moi
vraiment.
Je l'ai dit, ça me paraît une évidence. Ouais. Tu me demandais tout à l'heure les critères, je donne les critères.
Les critères,
très vite, hein, très,
mon cher,
très vite,
mon cher les Stéphane, les critères.
Il y a trois critères. Premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants.
J'aime bien le impressionnant, ouais.
Mais c'est le critère. Hein,
c'est tellement
deuxième critère, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison écoulée. Et le troisième critère, la classe du joueur et son sens du fair play. Je veux dire, moi, je pense tout simplement que quand on te donne ces trois critères, tu peux pas voir un autre joueur remporter le Ballon d'Or que Lionel Messi.
Non mais c'est clair pour Philippe. Pour Stéphane.
Philippe, sur la saison.
Philippe, toi aussi, pour moi, c'est clair.
Donc c'est clair. Messi, ouais.
Ibrahima, c'est clair pour toi?
Non, je crois. Ouais. Je comprends pas pourquoi Messi est Ballon d'Or cette année.
Mais il a évoqué les critères, Stéphane.
Avec les critères qu'il a énumérés, on peut mettre Haaland aussi dans ce cas-là.
Mais Haaland, il gagne pas la Coupe du Monde.
Mais il gagne la Première Ligue, la Ligue des Champions et la FA.
Ouais, mais la Coupe du Monde est plus
importante. C'est où que c'est notifié? Attendez, c'est où que c'est notifié que la Coupe du Monde est plus importante?
Ah non,
maintenant, moi, comme
il a été numéro joueur de la Coupe du Monde.
Je dis juste quelque chose. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants.
D'accord.
Je termine. Erling Haaland, par exemple. Donc Messi d'à côté, vainqueur de la Coupe du Monde, qui a guidé une équipe, on va dire, pas moyenne,
non,
correcte.
Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Qui a guidé. Je suis pas d'accord.
Bon, et de l'autre côté,
je suis pas d'accord.
Bah, il a été nommé quand même meilleur joueur de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est les faits.
Mais c'est ce que je dis. Ah non.
Tu l'aurais pas nommé peut-être toi meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais il a été
nommé.
Ensuite, Erling Haaland, il gagne par rapport à ça donc une Coupe du Monde, meilleur joueur de la compétition. Et presque meilleur buteur à un but près, on va dire, mais meilleur joueur de la compétition.
Non, on va pas
à Erling Haaland. Non, mais ça, c'est de l'interprétation.
Oui, non, mais faut arrêter les presque.
Non, mais c'est
de l'interprétation.
D'accord, ok.
Voilà, le reste, c'est factuel. Faut dire ce qu'il
y a. Deuxième meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition et meilleur joueur de son équipe. Et il gagne la Coupe du Monde. D'un autre côté, tu as Erling Haaland qui gagne la Ligue des Champions, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Qui est meilleur buteur, toute compétition confondue.
Non, déjà, là, on parle de la Ligue des Champions et qui est complètement fantomatique en demi-finale, au moins.
Non, non. non, non, non.
Mais
tu vois, voilà. C'est ça le problème, Stéphane. On va pas parler de. Bah, d'accord, donc on peut dire aussi contre l'Arabie Saoudite, il a été fantomatique, Lionel Messi. Vous voyez, si on veut commencer à aller sur les trucs comme ça, on peut dire Messi a été fantomatique sur ça. À part un penalty, pratiquement dans 4-5 matchs, il n'a pas fait grand chose et il était fantomatique. Excusez-moi,
des
pour moi.
Les fautes sont discutables.
Voilà, et très discutable. Très discutable.
Maintenant, quand tu dis. Les faits, il a été nommé meilleur joueur de la Coupe.
Mais là, maintenant, c'est là, t'as donné ton avis. Dans les faits, le problème.
Joueur de l'année, de foot de l'année.
Non,
et en Ligue 1, ça compte pas.
Et il a été en Ligue 1, mais avec le PSG, c'est.
Il a joué un mois et demi.
Dans l'année.
Il n'empêche les amis que visiblement Messi se dirige vers son autre, son huitième Ballon d'Or.
Vous allez voir.
Sur ça, il est réserve.
Alors j'ai une dernière question pour vous, Stéphane. Une dernière question.
Il y a plus de entre 20 et 30.
On va terminer, mon cher Jason, pas un 30 secondes chrono, s'il te plaît.
Dans les votes.
On va terminer.
Stéphane, c'est d'autres personnes comme toi qui votent. C'est normal.
Mon cher Eladj. Clairement. Mon cher Eladj. On va terminer par un 30 secondes chrono, s'il vous plaît. Selon vous, que pensez-vous des distinctions individuelles dans le foot? Chacun donne son avis et on ponctue là-dessus. On va commencer, c'est parti. 30 secondes chrono, Monsieur Philippe Carnu.
Eh bien écoute, le foot c'est un sport collectif, mais les joueurs sont très attachés, on l'a vu hier dans le reportage de l'équipe, au Ballon d'Or. C'est les joueurs eux-mêmes qui se battent aussi pour avoir cette désignation. Pour eux, c'est la reconnaissance suprême. Donc voilà, même dans un sport co, le Ballon d'Or c'est important.
Merci Philippe Carnu. Que pensez-vous des distinctions individuelles dans le foot, Ibrahima ?
Comme on dit souvent, le football, c'est le sport collectif le plus individuel. Donc à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des récompenses individuelles pour chaque joueur au vu de certaines performances. Maintenant, quand je vois la proportion que ça prend, et ça peut prendre une mauvaise, ça peut très mal tourner parce qu'aujourd'hui, un joueur peut refuser de faire la passe à son coéquipier tout simplement parce qu'ils sont en concurrence pour avoir le ballon d'or et que les statistiques comptent. Donc aussi, ça a un effet très pervers et je trouve qu'il va falloir remédier à ça et faire en sorte de surtout favoriser les trophées collectifs.
Merci Ibrahima. Que pensez-vous des distinctions individuelles dans le foot, mon cher Eladj? C'est parti.
Bah moi c'est simple, hein. Moi je pense qu'à partir du moment où tu gagnes le plus de trophées et que tu as été meilleur buteur, toute compétition confondue, et qu'il y a vraiment un écart aussi grandiose que ce qu'on a vu, on peut pas favoriser une compétition qui se joue un mois et demi, même si c'est la Coupe du Monde, qui se joue sur un mois et demi, deux mois maximum, sur toute l'année, et ne pas prendre en compte, parce que le reste de l'année, Messi a été catastrophique, et lui donner un ballon d'or comme ça, moi franchement ça me donne que envie de boycotter et dire aux anciens qui font truc de laisser la place aux jeunes, et nous on va changer les réformes parce qu'avec ces réformes là c'est pas bon.
Merci Eladj. Allez, on ponctue avec toi, mon cher Stéphane. Qu'est-ce que tu penses des distinctions individuelles dans le foot? 30 secondes.
Je note que Eladj a profité d'avoir la parole pour dire ce qu'il pensait complètement sans répondre du tout à la question. Moi je répondrai un peu comme Philippe, c'est-à-dire que c'est excitant, même si c'est un sport collectif. On a toujours, et nous culturellement on a toujours, on est fiers qu'Antoine Dupont ait été une fois le meilleur joueur de rugby du monde. Et ben c'est pareil, on cherche qui c'est en ce moment le meilleur, quel c'est le meilleur gardien, qui c'est le meilleur jeune.
Merci Stéphane Desenclos. Ben c'est sur cet avis qu'on va ponctuer au bout du foot de ce 30 octobre 2023. Merci à Jason Lindor qui réalisait ce numéro d'au bout du foot, à retrouver en podcast sur Mon Paris FM, également sur tous les bons réseaux sociaux. Philippe Carnu, Stéphane Desenclos, Eladj, Ibrahima étaient là. On salue Chakenza, on salue Abou, on salue toute la direction de Mon Paris FM et on se dit à lundi prochain. Salut. Mon Paris FM.